Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci aussi à Aurélien Barraud d'avoir accepté l'invitation de faire deux conférences à Poitiers, donc une ce soir à l'Espace Mouest France et une demain à 14h à la faculté de lettres et langues. Donc la thématique de ce soir, c'est une thématique qui change un petit peu par rapport à nos habitudes. On va aller sur l'astronomie lointaine dans l'espace et dans le temps. On va s'intéresser à l'origine de l'univers, au Big Bang, et surtout on va aller explorer d'autres univers, des univers parallèles, des multi-univers. J'espère qu'on ne va pas se perdre, comme dans les rues de Poitiers, à travers tous ces univers-là. Donc la conférence va durer une heure et demie, et à la fin de la conférence, il y aura possibilité donc, d'intervenir, de poser des questions, débattre sur des sujets. Il faudra lever la main, tout simplement. Ce n'est pas pour être discipliné, c'est simplement pour le passage du micro, parce que la conférence est enregistrée, et donc c'est pour avoir en fait, la question sur l'enregistrement, et on entend comme ça à la fois la question et la réponse. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne conférence, et à tout à l'heure. Merci encore.
Merci, bonsoir. Donc en effet, je me suis perdu dans la ville, j'ai failli pas arriver, mais voilà, je suis content d'être là. Merci beaucoup de votre invitation. Voilà, je vais un peu vous dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, finalement, de notre univers au sens le plus large. Vous savez, la cosmologie, c'est vraiment la science du contenant en tant que tel. Hein, c'est-à-dire, on ne s'intéresse pas aux comètes, aux planètes, aux météorites. On s'intéresse vraiment à l'univers, c'est-à-dire, en fait, à l'espace en lui-même. Et je trouve que c'est déjà beau, finalement, que la cosmologie existe, parce qu'il ne va pas de soi qu'il y ait quelque chose à dire sur l'espace. Il ne va pas de soi que l'espace et le temps aient en eux-mêmes une histoire. Donc je trouve que la simple éclosion de la cosmologie en tant que théorie physique, aujourd'hui respectable, et même en tant que science de précision, nous dit déjà, finalement, quelque chose d'assez émouvant et d'assez étrange quant au réel. Alors, j'aime bien parfois commencer en référant au poète grec Hésiode, parce que finalement, c'est peut-être le premier à avoir échafaudé une sorte de cosmogonie complète des origines de l'univers. On appelait ça à l'époque la théogonie, puisque les dieux, en quelque sorte, se mêlaient avec les éléments. Et cette théogonie s'ouvre par ces très belles paroles. Il dit « Commençons par invoquer les muses de l'Hélicon. » Les muses qui, habitant cette grande et céleste montagne dense d'un pas léger, autour de la noire fontaine et de l'autel du puissant fils de Cronos, et, baignant leurs membres délicats dans les ondes du Permès, de l'Hippocrène et du divine Olmée, forment, sur la plus haute cime héliconienne, un cœur admirable et gracieux. Alors hélas, on n'écrit plus de physique aujourd'hui en ces termes. L'hexamètre dactylique n'est pas beaucoup utilisé dans les publications scientifiques. Vous savez, le dactyle, c'est le rythme de la... Le dactyle, ça veut dire doigt, hein, donc c'est le rythme des phalanges, long, court, court. C'est vraiment le rythme presque sacré de la poésie, hellénique. Alors, pour autant, même si nous n'écrivons plus dans le même style, quelque chose nous reste quand même, je crois, de ce geste fondamental des aèdes. C'est comme ça qu'on nommait les poètes en Grèce ancienne. Et ce quelque chose qui nous reste, c'est un désir, une velléité comme ça de désanthropocentrisation du monde. C'est-à-dire de voir l'univers avec des yeux un peu différents de ceux dont nous sommes réellement affublés, pour essayer de voir plus loin et pour essayer de voir différemment et pour essayer de sonder quelque chose de notre monde au-delà de ce qui nous est directement utile, au-delà de ce pourquoi l'évolution darwinienne nous a rendus finalement extraordinairement compétents. Alors vous savez que cette grande démarche qui se fonde sur une observation du ciel à plein de longueurs d'onde, en voyant toutes les lumières possibles, nous a conduit au cours du XXe siècle à élaborer ce très étrange et très impressionnant modèle du Big Bang. Alors le Big Bang, quand on y pense un instant, c'est quand même quelque chose d'incroyablement dérangeant, quoi. Comment peut-on penser que l'univers a eu un début? C'est-à-dire que l'espace et le temps ont eu un début. Si on est un peu honnête, qu'on oublie notre savoir et qu'on fait comme ça un geste un peu d'humilité intellectuelle, moi je crois que c'est absolument incroyable cette histoire. Quand on y pense un peu, cette sorte d'épiphanie comme ça de l'univers, ce passage du non-être à l'être, c'est quelque chose qui dépasse rigoureusement l'entendement. Et en effet, ça a été très dur au début du XXe siècle de faire admettre ces idées éminemment subversives, pour ne pas dire absolument farfelues, de naissance de l'univers. Et les arguments se sont accumulés les uns après les autres. Alors le premier argument que je voudrais vous donner, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Olbers, c'est-à-dire le fait que le ciel est noir. Alors vous allez comprendre pourquoi déjà ça nous dit quelque chose. Parce que c'est quoi le meilleur modèle concurrent du Big Bang ? Ça serait un univers qui est éternel, infini et statique. Quand on y réfléchit quelques instants, le modèle d'univers éternel, infini et statique, on pourrait reconnaître que c'est l'univers intuitif, c'est l'univers normal. C'est ce à quoi, je pense, chacun d'entre nous aurait naturellement songé si, en l'absence de la connaissance scientifique que nous avons, on lui avait demandé de jeter une hypothèse sur l'origine du monde. Mais si l'univers était effectivement éternel, infini et homogène et statique, eh bien le ciel nocturne ne pourrait pas être noir. Il ne pourrait pas être noir parce que quand on regarde l'univers, les étoiles qui sont très loin envoient moins de lumière sur notre œil, mais elles sont beaucoup plus nombreuses. Et ces effets de proximité et de nombre se compensent, ce qui fait que quand on somme sur toute la taille de l'univers, on devrait en fait voir un ciel nocturne extraordinairement brillant. Donc le simple fait que le ciel soit noir, je trouve ça très beau parce que ce sont des mathématiques élémentaires, c'est vraiment des mathématiques de classe de seconde, permet déjà de démontrer, non pas que le Big Bang est vrai naturellement, mais que l'alternative au Big Bang, c'est-à-dire un univers infini et statique, n'est pas correcte, n'est pas tenable et est même rigoureusement fausse. Vous voyez, on commence déjà, on n'a pas besoin de relativité générale, on n'a pas besoin d'équations compliquées. La simple obscurité du ciel nocturne est déjà un élément qui nous pousse en faveur de l'idée que peut-être l'univers a eu une origine. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres indications en cette faveur. Je pense par exemple à l'observation de Seyfert, c'est-à-dire improprement attribuée à Hubble, c'est-à-dire le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Alors ça, c'est quand même un argument massu. Finalement, on voit l'expansion de l'univers, on voit que tous les corps à grande distance dans le cosmos s'éloignent les uns des autres. Alors bien sûr, quand on dit que les galaxies s'éloignent toutes de la Terre, ce n'est pas parce que la Terre est le centre du monde, parce qu'elles s'éloignent aussi toutes les unes des autres. Donc en fait, chaque galaxie est en train de s'éloigner de chaque autre galaxie, et ça en quelque sorte, c'est l'argument observationnel direct en faveur de cet étrange modèle du Big Bang. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, la très belle concordance des âges. C'est-à-dire que si on regarde la vitesse d'expansion de l'univers, on peut se dire, si je passe le film à l'envers, combien de temps nous sépare de l'instant initial où toutes les galaxies étaient au même point ? Et je trouve une certaine valeur. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la valeur que je trouve. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cette valeur avec les âges des objets qui se trouvent dans l'univers. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez que le modèle du Big Bang est très fortement falsifiable. C'est-à-dire qu'il suffirait que je trouve un seul objet dans l'univers qui est plus vieux que l'univers pour que le modèle s'effondre. Puisqu'évidemment, nous ne pouvons pas être plus vieux que l'univers. Et donc, je peux faire ça. Je vais dater les comètes, je vais dater les astéroïdes, je vais dater les étoiles, je vais dater la Terre, évidemment, et je vais comparer ça à l'âge de l'univers. Et le résultat est remarquable. Parce que le résultat, c'est en effet que tous les objets observés sont bien plus jeunes que l'univers, comme il se doit, mais en plus qu'ils sont répartis sur des âges qui sont très dispersés entre l'époque contemporaine et le moment supposé de l'origine. Et ça, bien sûr, ça conforte radicalement le modèle. Parce que si, évidemment, on trouvait que tous les objets dans le cosmos sont apparus dans les derniers 10 000 ans, et que le cosmos a 13 milliards d'années, ça serait peu crédible. On se dirait, mais comment se fait-il que pendant 99,999% du temps, il ne se soit rien passé ? Ça serait hautement étrange. Mais ce n'est pas le cas. On trouve des étoiles qui ont des âges très dispersés entre l'époque contemporaine et une époque relativement voisine du Big Bang. Donc c'était un argument très fort. Et puis il y a d'autres arguments, par exemple le fait que l'univers évolue encore, parce qu'après tout, si l'univers avait eu un temps infini pour atteindre l'équilibre, il aurait sans doute déjà atteint l'équilibre, et par conséquent, il ne se passerait plus grand-chose. Donc le simple fait qu'il y ait encore une évolution intense à l'échelle du macrocosme plaide en faveur d'une origine qui n'est pas si éloignée. Il y a bien sûr ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, donc derrière ce nom technique se cache simplement le fait que l'univers jeune a dû lui aussi jouer le rôle de chaudron pour synthétiser les éléments chimiques. Vous savez que notre ami Hubert Reeves aime à dire que nous sommes des poussières d'étoiles, et il a raison. Notre corps, qui est en grande partie composé de carbone et d'eau, bien sûr, ces éléments-là, carbone, oxygène, viennent en effet des explosions d'étoiles, des supernovées. Donc c'est tout à fait vrai que nous sommes nous-mêmes des résidus d'étoiles. Mais ce qui advient dans les étoiles, c'est-à-dire la fusion nucléaire, doit aussi avoir eu lieu juste après le Big Bang. Parce que juste après le Big Bang aussi, il faisait très chaud. On avait donc des conditions a priori propices pour créer des éléments. Et donc on doit aujourd'hui encore observer des éléments reliques, non pas créés dans les étoiles, mais créés juste après le Big Bang. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est effectivement le cas. On observe ces éléments reliques avec des abondances qui sont à peu près celles prédites par le modèle du Big Bang. Donc c'est encore une corroboration. Puis le dernier argument que je vous donne, que vous connaissez sans doute, bien sûr, c'est le rayonnement cosmologique fossile. En quelque sorte, ce qu'on appelle la première lumière de l'univers ou l'écho du Big Bang. Parce que quand l'univers a grandi, il s'est refroidi. Un peu comme un piston, vous savez, de réfrigérateur. Hein, c'est comme ça qu'on fait de l'air conditionné. On fait une détente adiabatique. Le piston, comme ça, fait augmenter le volume et donc la température chute. Bien de la même manière, si l'univers est en expansion, il doit y avoir une chute de température. Et donc, vint un moment dans l'histoire cosmique où la température fut suffisamment faible pour que la lumière n'ait plus assez d'énergie pour interagir avec la matière. Et donc cette lumière s'est découplée de la matière et doit aujourd'hui constituer une sorte de bain dans lequel nous nous trouvons. On peut calculer quelle est l'énergie attendue de ce bain, on peut calculer quelle est sa distribution spatiale et spectrale attendue, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a effectivement mesuré ce rayonnement cosmologique. C'était la découverte de Penzias et Wilson, il y a une quarantaine d'années, qui a été raffinée par le satellite Kobe, il y a une vingtaine d'années, et qui a récemment été encore raffiné par le satellite européen Planck. Donc aujourd'hui, on a une extrêmement bonne compréhension de ce rayonnement fossile dans lequel nous baignons, et c'est très beau en fait, parce qu'on voit des petites ondulations dedans. Et ces petites ondulations, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle en physique des ondes acoustiques. Et les ondes acoustiques, eh bien, vous savez qu'elles sont riches d'informations, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un... Un pianiste, par exemple, peut reconnaître un piano Bernstein, Fagioli, Steinway, Bösendorfer. Comment ? Précisément par sa structure harmonique. Même quand ils sont bien accordés, les pianos ne sonnent pas tous pareils, parce que la table d'harmonie est plus ou moins en relation avec les cordes, etc. Et on peut comprendre la composition du piano à partir de la manière dont il sonne. Et de la même manière, en regardant ces ondes acoustiques dans l'univers, on va apprendre des choses sur la composition de l'univers, la masse de l'univers, la vitesse d'expansion de l'univers. Et aujourd'hui, tous ces paramètres nous sont connus avec des précisions qui sont remarquables et qui sont de l'ordre du pourcent, voire du pour mille pour certains d'entre eux. Donc c'est quand même à la fois paradoxal et fascinant. On connaît mieux l'âge de l'univers que l'âge de la Terre, finalement. Donc on a une compréhension du cosmos. Les cosmos en grec, c'est pas seulement l'univers, c'est aussi l'ordre, l'harmonie. Donc il y a de façon consubstantielle à l'idée même de monde, l'idée comme ça d'une sorte de convenance raisonnable dans la pensée grecque. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui parce que cet univers à grande échelle est effectivement très harmonieux. Jusque-là, tout va bien. Mais il faut faire mieux que ça pour avoir un modèle. Pour avoir un vrai paradigme, comme dit l'épistémologue américain Kuhn, Thomas Kuhn, il faut des observations et une théorie. Et la bonne nouvelle, c'est que la théorie, nous l'avons aussi. Comme vous le savez, elle s'appelle la relativité générale et elle fut proposée par Albert Einstein il y a un peu plus de 100 ans. Alors c'est quand même une théorie qui est absolument extraordinaire et qui mérite peut-être d'être rappelée pour elle-même avant que nous en venions à son application à l'univers et au socle qu'elle va jouer pour le modèle du Big Bang. Alors d'abord, Einstein ne s'est pas intéressé au champ de gravité, il s'est intéressé au déplacement. Il a créé ce qu'on appelle la relativité restreinte. La relativité restreinte, c'est une théorie qui est remarquable parce qu'elle va conduire à trois résultats qui sont quand même des révolutions dans la manière de penser le monde. Le premier résultat, c'est le fait qu'il existe une vitesse absolue indépassable, qu'on appelle la vitesse de la lumière. Bon, ça, vous le savez. Après tout, vous pourriez me dire, oui, bon, pourquoi pas ? Ça n'a rien de si extraordinaire. Mais si, c'est extraordinaire. Parce que ce que comprend Einstein, c'est que le fait qu'il existe une vitesse indépassable, en fait, ça n'a rien à voir avec la lumière. C'est contingent que ce soit la lumière. En fait, cette vitesse indépassable, il faut la penser comme une sorte de constante de structure de l'espace-temps. Ce que je veux dire par là, et pour ne pas être trop technique, c'est que, en fait, l'existence d'une vitesse limite ne dépend pas des lois qui sont à l'œuvre dans notre monde. Elle dépend simplement du fait que des lois existent. C'est-à-dire que si vous imaginez un univers qui aurait des lois différentes des nôtres, il y aurait quand même cette vitesse limite. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que cette vitesse limite, elle est inhérente à l'existence de l'espace-temps. Elle n'a rien à voir, en fait, avec les lois de propagation de la lumière. Et ce n'est que très secondairement qu'elle est effectivement égale à la vitesse de la lumière. Ça, c'est très beau. C'est une sorte de méta-résultat, vous voyez. C'est un résultat de niveau supérieur en physique. Le deuxième résultat de la relativité restreinte, bah, c'est quand même que le temps et l'espace ne sont pas des grandeurs aussi absolues que nous le crûmes, grâce à Kant et à Newton. Ce que Einstein nous montre, c'est qu'en fait, si je me mets à marcher là, dans cette pièce, ma montre va légèrement se désynchroniser par rapport à la vôtre. Donc si nous indiquions exactement la même heure au début de la petite conférence, eh bien, parce que là je ne peux pas m'empêcher de marcher sur l'estrade, à la fin de la conférence, nos montres n'indiqueront plus exactement la même heure et la mienne va un peu retarder par rapport à la vôtre. Alors comme je marche très doucement par rapport à la vitesse de la lumière, la désynchronisation sera minuscule et à la précision d'une montre mécanique, évidemment, on ne la verra pas. Mais elle existe, peut-être un milliardième de seconde, je ne vais pas le voir concrètement sur l'écran de ma montre, mais cette désynchronisation existe. Et si je me mettais à marcher beaucoup plus vite, la désynchronisation pourrait devenir très grande. Donc si je marchais à 99% de la vitesse de la lumière, il pourrait se passer par exemple une minute pour moi et il se passerait par exemple 40 ans pour vous. Donc les étudiants qui sont là, moi je n'aurais pas pris une ride par rapport à maintenant, j'en ai quelques-unes, mais je n'en aurais pas une de plus, alors que vous, vous auriez 70 ans et vous auriez les cheveux blancs. Voilà. Alors que moi, il commence seulement. Donc, et ça c'est vrai, voilà, c'est pas de la science-fiction. Et c'est pas parce que le temps biologique, etc. Je parle de temps objectif. C'est-à-dire que, et bien sûr, la mauvaise question serait de se dire, mais en vrai alors, en vrai, il s'est passé une seconde ou il s'est passé 40 ans ou 50 ans dans mon exemple. Et bien sûr, la réponse, elle, les deux sont vraies. Il s'est vraiment passé une seconde pour moi, il s'est vraiment passé 50 ans pour vous. Et quand on se retrouve, j'ai effectivement une seconde de plus et vous avez effectivement 50 ans de plus. Voilà. Et donc ça, c'est quand même une déconstruction absolument faramineuse de toute l'idée métaphysique de l'espace et du temps comme des grandeurs absolues, transcendantales, disait Emmanuel Kant. Transcendantal, ça ne veut pas dire transcendant, ça veut dire a priori, essentiellement, dans le vocabulaire kantien. Et la troisième grande révolution d'Einstein, bah c'est E égale MC2, qui est quand même l'histoire d'une frustration, parce que c'est la seule formule de physique que tout le monde connaît, mais qu'en fait personne ne comprend, hormis les physiciens et les amateurs de physique, parce que c'est une formule qui est quand même assez compliquée quand on y réfléchit. Évidemment, si on peut savoir ce que E c'est l'énergie, M c'est la masse, C c'est la vitesse de la lumière. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a toujours rien compris, parce que bon, l'énergie égale la masse fois la vitesse de la lumière au carré, oui, pourquoi pas. Enfin, c'est pas intrinsèquement quelque chose d'excitant, quoi. Mais c'est excitant quand on a compris que E et M, ce sont des grandeurs qui ont vraiment un sens physique qui n'a rien à voir. Et que donc, le fait qu'elles soient égales, c'est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que M, c'est la masse, donc c'est l'existence, donc c'est l'être. Pour le dire dans un jargon philosophique, c'est un peu l'ontologie, vous voyez ? C'est ce qui constitue une particule élémentaire en tant que telle. La masse d'un proton, c'est la même partout et toujours. C'est ce qui fait que c'est un proton, avec sa charge et son spin, mais c'est une des caractéristiques qui fait que c'est un proton. Et la masse de l'électron, c'est la même partout et toujours. C'est ce qui fait que c'est un électron. Alors que l'énergie, vous voyez, c'est une propriété qui est complètement secondaire, qui est acquise. Là, par exemple, hop, je me mets en mouvement, j'acquiers de l'énergie de déplacement, mais je reste moi-même. Je peux la gagner, je peux la perdre, l'énergie. C'est quelque chose qui est contingent, qui est susceptible d'évoluer, qui est relatif à une circonstance. Et donc le fait que les deux soient égales d'après la formule d'Einstein, ça veut dire que je peux transformer l'un dans l'autre, et donc que je peux transformer de l'énergie en masse. Et ça c'est quand même génial, parce que ce que ça signifie, c'est que finalement, je peux transmuer, pourrait-on dire, bon là je prends un peu un vocabulaire d'alchimiste, mais vous savez, tiens, je fais une parenthèse, moi ça m'agace un peu aujourd'hui de voir les courants scientistes qui ont une haine viscérale pour tout ce qui n'est pas la science à proprement parler. Moi j'ai été très très amusé parce que quelqu'un une fois avait écrit un article très, très méchant en expliquant qu'en gros tout ce qui ne relève pas de la science a quelque chose de la maladie mentale, mais ces gens n'ont juste rien compris à l'histoire. Notre père à tous, les physiciens Isaac Newton, a, on le sait aujourd'hui de façon certaine, passé plus de temps dans des formules d'alchimie complètement délirante qu'à faire de la physique, vous voyez. Alors évidemment, la postérité l'a reconnu pour la physique et pas pour l'alchimie. Et en effet, je suis plus intéressé par la loi de la gravitation que par ces propositions alchimiques. Mais l'esprit humain a plusieurs modalités. Voilà, c'est une chose qu'on peut aimer ou craindre, mais c'est un fait, quoi. Et enfin bon, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que E égale MC2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut transmuter du déplacement en existence. C'est un peu comme si je me mettais à courir très vite contre le mur et paf, je crée un deuxième moi-même en touchant le mur. Je vais transformer mon déplacement en un objet matériel. Alors cet exemple-là est un peu métaphorique, on va dire, mais ce qui se passe de façon réelle, c'est que dans un accélérateur de particules, vous avez deux particules qui vont très vite, on utilise leur vitesse Et grâce à leur vitesse, on va créer d'autres particules, mais éventuellement sans détruire les particules initiales. Donc les particules initiales sont toujours là. Si vous voulez, c'est pas comme si, faut surtout pas que vous pensiez un accélérateur de particules comme quelque chose où on casse la matière et on fait donc des petits bouts de matière. Non, c'est pas ça. En fait, on utilise le déplacement et on crée de la matière à l'aide du déplacement, éventuellement sans perdre la matière initiale. C'est ça que fait E égale MC2. Donc vous voyez que c'est révolutionnaire. C'est vraiment un pont qui est jeté entre des mondes, à savoir le monde des choses et le monde des attributs, pourrait-on dire, qui semblaient a priori disjoints. Donc c'est effectivement quelque chose qui marque l'histoire de la physique. Bon. Et alors tout ça, ça a conduit à la physique des particules, qui est hautement, bien sûr, décrite par la relativité restreinte et la physique quantique. Et cette physique des particules, elle joue aussi un rôle très important en cosmologie. Parce que pour comprendre l'histoire de l'univers, bien, il faut savoir ce qu'il y avait dans l'univers. Et la physique des particules, c'est l'autre pilier, finalement, du modèle de Big Bang, qui va décrire le contenant. Et ensuite, la théorie va permettre de mettre le contenant en lien avec le contenu. Et ça, c'est très exactement l'enjeu de la relativité générale. Alors la relativité générale, bon, là je ne suis pas très original, hein, mais tant pis. Comme la plupart des physiciens, je pense que c'est la plus belle théorie de la physique et probablement une des plus grandes constructions de l'esprit humain. Parce que finalement, la relativité générale, on la présente souvent en disant elle nous apprend que l'espace est courbe et que quand je mets des corps dans l'espace, eh bien, l'espace n'est plus une entité absolue, mais que c'est une entité qui va se déformer et finalement, le mouvement, par exemple, de la Lune autour de la Terre, eh bien, c'est le mouvement de la Lune qui n'est pas attiré par la Terre, comme disait Newton, mais qui avance en ligne aussi droite que possible dans l'espace courbé par la présence de la Terre. Bon, tout ça est vrai, et est une bonne présentation. Mais je trouve que quand on a dit ça, on a peut-être raté quand même la substantifique moelle. Parce que la substantifique moelle, c'est pas tellement que l'espace est courbe. Après tout, si vous êtes un peu mathématicien, pour une variété différentielle, c'est beaucoup plus normal d'être courbe que d'être euclidienne, quoi. Donc c'est pas tellement un résultat génial que l'espace soit courbe. En fait, ce qui est vraiment génial, c'est d'avoir compris que l'espace était lui aussi un objet physique. C'est ça le cœur de la relativité générale. Vous voyez, si je prends mon feutre, je le lance, il décrit une petite parabole, il tombe, il rebondit. Bon, ça n'étonne personne que ça fasse ça. Bien, ce que comprend Einstein, c'est que l'espace aussi, quand on le lance, eh bien, il rebondit ou il évolue. Alors, il ne rebondit pas sur quelque chose, hein, mais il rebondit sur lui-même, où il évolue, où il grandit, où il rapetisse, peu importe. Mais Einstein a compris que l'espace était lui-même un objet physique capable d'être en mouvement. Et ce qu'on appelle les équations d'Einstein, les équations de champ de la relativité générale, ce sont précisément des équations qui permettent de comprendre comment le contenu de l'univers va influer sur la dynamique de l'univers. Et donc la grande déconstruction, c'est d'avoir compris par la théorie de la relativité que finalement nous vivons dans un monde qui est entièrement relationnel. L'espace et le temps ne sont plus, comme pour Newton, des grandeurs figées, ce sont des grandeurs en évolution perpétuelle. La masse dites à l'espace comment se courber, et en retour, l'espace courbe, dites à la masse comment se mouvoir. Mais il n'y a plus de distinction fondamentale entre les corps et l'espace. L'espace devient en quelque sorte un corps comme les autres. Il a ses spécificités propres, de même qu'un électron, ce n'est pas un proton, de même qu'un photon, ce n'est pas un quark, etc. Mais l'espace est un des corps de la nature, et n'est plus seulement cette espèce de cadre absolu, figé, transcendantal, tel que le pensait Newton. Donc ça, évidemment, c'est une très grande révolution. Et pourquoi ça change tout pour l'univers ? Parce que maintenant, vous commencez à sentir, si vous ne le saviez pas déjà, que l'expansion de l'univers, c'est ça, en fait. L'expansion de l'univers, ce n'est pas du tout les galaxies qui se déplacent, pas du tout. C'est le mouvement propre de l'espace. C'est l'espace lui-même qui est en train d'enfler. Et quand on parle de l'expansion de l'univers, ce qu'on observe en réalité, c'est l'inflation de l'espace. C'est le mouvement intrinsèque de l'espace. Donc on pourrait dire, de façon un peu paradoxale, mais néanmoins juste, que les galaxies s'éloignent sans bouger. Il n'y a pas des petits moteurs derrière les galaxies, il n'y a aucune raison qu'elles bougent. Les galaxies sont essentiellement fixes dans l'espace, et l'espace, comme un gigantesque chewing-gum, si vous voulez, est en train lui-même d'enfler. Et c'est cet enflement de l'espace qui conduit à l'expansion de l'univers. Et ça, c'est génial, parce que dans le cadre de la physique ancienne, dite de Newton, on ne pouvait pas comprendre l'expansion de l'univers. Ça n'avait aucun sens. Et donc là, vous voyez qu'on est en train de mettre sur pied, enfin je dis on, ça fait déjà un moment, hein, ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une image du monde. Et cette image du monde, elle est sous-tendue par plein d'observations qui tendent à montrer que l'univers est en expansion depuis un temps fini, etc., et par une théorie qui est la relativité générale et qui prédit précisément cela. La relativité générale nous montre que l'espace cosmologique ne peut pas être statique et qu'en fait, il est prévu par la théorie que l'espace soit en expansion. Donc on a une théorie qui prévoit l'expansion et on a des observations qui montrent l'expansion. Jusque-là, tout va bien. On peut commencer à considérer qu'on connaît quelque chose de notre environnement. Bien. J'en suis à la moitié, donc je vais pouvoir changer de casquette. Et après avoir été l'avocat de la défense, je vais devenir le procureur. Mais le procureur en un sens, bienveillant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire le procès de la science ou de faire le procès de la cosmologie. Moi, je crois qu'on se trompe, en fait, quand on veut présenter aux gens la science comme un édifice parfait, achevé. Et même, je crois que je trouve que ça évolue favorablement dans l'enseignement. D'ailleurs, je suis peut-être un des seuls, parce qu'évidemment, il faut râler, donc tout le monde trouve que c'est nul, que c'était mieux dans le passé, etc. C'est très drôle, d'ailleurs. Vous savez qu'on a trouvé des textes pré-socratiques du 7e siècle avant Jésus-Christ qui disaient déjà que le niveau de l'enseignement était tellement bas que ça ne pouvait pas tomber plus bas. Donc cette idée qu'on a touché le fond, toutes les époques l'ont eu. Donc on n'y échappe pas, mais évidemment, ce n'est pas vrai. Et moi, je ne trouve pas du tout que l'enseignement des sciences décroît, en fait. Bien sûr qu'en termes de technicité, il décroît, ça, il n'y a aucun doute. Mais on apprend aux enfants à voir d'autres choses, à penser d'autres choses, à être un peu plus créatif. Ça me semble absolument pas scandaleux personnellement, et on commence à insister un peu sur l'histoire des sciences, et ça c'est très très bien, parce que présenter la science comme une sorte de pensée révélée, c'est lui faire offense, parce que ce qui distingue la science de la religion par exemple, c'est justement que la science a conscience de ses faiblesses, connaît ses problèmes, y fait face, ne les cache pas et tente de les résoudre, et parfois elle n'y arrive pas, et quand elle n'y arrive pas, on rebrousse chemin, on essaye autre chose. Et donc, ne faisons pas semblant que le modèle du Big Bang est absolument parfait, parce que c'est faux, et parce que finalement, c'est même antinomique à l'idée même d'une démarche scientifique. Voyez. Donc, on en parlera peut-être un peu plus tard, si vous voulez, mais je pense que c'est aussi un problème de société, ça. C'est pas simplement un problème scientifique. Par exemple, moi, j'ai des amis qui sont complètement obsédés par la lutte contre le créationnisme. Vous savez, cette idée comme quoi toutes les espèces auraient été créées telles que par Dieu, ce que je pense en effet être faux, hein. Mais il faut faire attention quand on défend le darwinisme, ce qu'en effet je crois être vrai, donc je suis partisan de cette mouvance, de rappel au darwinisme, mais il faut le faire bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire en laissant croire qu'il n'y a absolument aucun problème dans la théorie de l'évolution et dire aux gens « that's a fact ». C'est ce que les gens adorent dire ça. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas faire honneur à la science que de présenter comme un fait définitif ce qui ne peut pas l'être en fait. Donc moi je crois qu'il faut être prudent, modeste, et aimer notre discipline pour ce qu'elle est vraiment, voilà, et pas mentir au nom de la vérité, ce qui serait quand même un peu un comble. Voilà. Alors les problèmes, que sont-ils ? J'en sélectionne que quelques-uns, parce qu'il y en a tellement qu'on y passerait la nuit, hein. Mais tant mieux, parce que ça fait du travail pour les chercheurs, s'il n'y avait aucun problème, je ne sais pas à quoi je passerais mes journées. Donc le premier problème que je voudrais mentionner, ce sont les trous noirs. Alors les trous noirs, c'est qu'à moitié un problème. D'un certain point de vue, ce n'est pas un problème, parce que d'un certain point de vue, les trous noirs sont aussi quelque chose qui est autorisé par la théorie de la relativité générale et qui est effectivement observé. Donc, en un premier sens, les trous noirs ne sont pas vraiment des paradoxes, parce qu'on s'attend à ce que les étoiles massives, à la fin de leur vie, implosent en trous noirs, c'est-à-dire des objets dans lesquels il est possible d'entrer, mais dont il est impossible de s'extraire, hein, c'est la définition d'un trou noir, des objets qui poussent un peu à la théorie à son paroxysme, parce que la courbure est très grande, etc. Et ces trous noirs, comme vous le savez, on les observe. Alors, on ne les observe pas avec nos yeux, mais peu importe, hein, on n'observe pas non plus l'amour avec nos yeux, ce qui n'empêche pas que ça existe. Donc, il y a plein de manières d'observer. Et pour observer les trous noirs, on utilise des phénomènes indirects, donc les disques d'accrétion qu'il y a autour, les jets de particules qu'ils émettent. Et comme vous le savez, depuis maintenant quelques années, on peut même utiliser les ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles, on en a beaucoup parlé dans la presse, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais quand même, c'est émouvant parce que la lumière là, que je vois, c'est une onde qui se déplace dans l'espace. Alors que les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes d'espace. C'est l'espace lui-même qui se met à vibrer. Et donc, c'est vraiment comme si on était doué d'un nouveau sens, quoi. C'est comme si on avait vraiment une nouvelle manière, radicalement nouvelle, de voir le cosmos. On fait un peu ce que voulait Platon, en fait. On regarde l'univers avec des yeux de géomètre. Parce que les ondes gravitationnelles, c'est directement la géométrie. C'est le tressaillement fugace de la géométrie. Donc le fait qu'on puisse voir ça, c'est magnifique, et c'est aussi une très bonne indication de l'existence de trous noirs, parce que les événements qu'on a vus, on ne peut pas les expliquer autrement. Donc ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il y a une perte d'information. Et ça, la physique l'interdit. Il y a des théorèmes très fondamentaux de mécanique quantique qui montrent que l'information doit être conservée. Et il semble que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire que, quand, si vous voulez, la formation d'un trou noir est le seul processus physique pour lequel il n'y a pas de processus inverse. Bien sûr, là, si je lâche mon téléphone très fort et que je le casse, bon, concrètement, il sera cassé. Mais en principe, je pourrais imaginer le reformer. Et en principe, à partir de l'état final, concrètement, j'aurais peut-être plus accès à mon répertoire, mais l'information n'est pas stricto sensu perdue, elle est juste cachée. Alors que dans un trou noir, elle est définitivement perdue. Les trous noirs sont amnésiques. C'est-à-dire qu'ils ont été formés par une implosion d'étoiles ou par une botte de carottes géante, ça ne change absolument rien à l'état final du trou noir. Et donc, là, on a un problème. La continuité de l'information... Excusez-moi. Pardon. La continuité de l'information est perdue. Et ça, c'est en contradiction, en aporie, avec ce qu'on comprend en physique théorique. Donc ça, c'est une première difficulté pour laquelle nous n'avons aujourd'hui aucune réponse consensuelle. Donc, ce sont des choses qui sont très étudiées depuis une quarantaine d'années, pour lesquelles il y a beaucoup de pistes, mais absolument aucune solution convaincante. Le deuxième problème qu'on a, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Alors, la matière noire, c'est quand même l'enfer, quoi. Parce que il se trouve que la totalité de ce qu'on voit dans l'univers, ce sont les étoiles, essentiellement. Hein. Les planètes, c'est négligeable en masse, les trous noirs, c'est négligeable en masse, à l'échelle du cosmos, etc. Donc, tout ce qu'on voit qui pèse, c'est les étoiles. Or, aujourd'hui, on sait que les étoiles ne représentent que 1/200 de la masse de l'univers, c'est-à-dire 0,5% du total, ce qui est totalement dérisoire. Donc là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, parce que ça veut dire que l'essentiel de la composition de l'univers qui nous entoure est de nature absolument inconnue. Et c'est même pire que ça, on a pu démontrer que l'essentiel de cette matière noire n'est même pas constitué à partir des particules élémentaires qui sont autour de nous. C'est-à-dire que là, par exemple, dans cette pièce, tout ce qui pèse, c'est les protons et les neutrons. Les électrons, c'est négligeable. Donc là, protons et neutrons. Alors on pourrait se dire, la matière noire, c'est des protons et des neutrons, sauf qu'au lieu de faire des tables et des bons hommes et des bonnes femmes, eh ben, ça fait autre chose. Ça serait le plus raisonnable. Mais non, c'est pas ça. On sait que la matière noire, pour l'essentiel, elle n'est pas faite avec des protons et des neutrons. Donc vous voyez que c'est à la fois un défi pour la compréhension du macrocosme, mais c'est aussi un défi pour la compréhension du microcosme, parce que ça signifie que cette matière noire est... D'une structure interne ou intime qui n'est pas découverte à l'heure actuelle dans nos accélérateurs de particules. Et le grand accélérateur du CERN, le LHC, bon, on est content, il a vu le boson de Higgs, c'est très bien, mais quand même, la chose qui était espérée au départ, c'était justement de créer des particules de matière noire. On voulait former des particules de matière noire au LHC. Et on n'en a pas fait. Et ça a échoué. Donc ça veut dire que finalement, on n'a aujourd'hui aucune piste sérieuse pour comprendre de quoi est faite la matière noire de l'univers. Le troisième problème, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Alors vous commencez à comprendre que le mot noir, on l'aime bien, en fait, on le met pour dire qu'on ne sait pas de quoi on parle, quoi. Voilà, c'est pas du tout insultant, d'ailleurs, au contraire, c'est même plutôt excitant. Mais bon, il faudrait qu'un jour, ça devienne quand même un peu plus brillant, au moins métaphoriquement, pour que nous ayons de quoi prédiquer sur ces objets. Alors, l'énergie noire, c'est le nom qu'on donne au fait que l'expansion de l'univers est accélérée. Alors, il faut être bien clair, parce que j'ai souvent noté des confusions dans les discours. Le fait que l'univers soit en train de grandir, ça, c'est pas un paradoxe. N'est-ce pas ? C'est ce que prédit la théorie d'Einstein et c'est ce qu'on voit, donc tout va bien. Le paradoxe n'est pas l'expansion de l'univers. Le paradoxe, c'est l'expansion accélérée de l'univers. C'est le fait qu'on a découvert, il y a environ 18 ans, et les découvreurs ont eu le prix Nobel pour ça il y a quelques années, que le grandissement de l'univers est de plus en plus rapide. Et ça, c'est bizarre parce que la gravité, c'est une force de freinage, c'est une force attractive. Et normalement, quand on freine, on n'accélère pas. Donc le fait que, malgré le freinage, on accélère, ça veut simplement dire qu'on n'a pas compris ce qui se passait. Et on ne sait pas très bien quelle est l'origine de cette expansion accélérée de l'univers. Il y a pléthore de modèles, mais aucune solution qui soit tout à fait satisfaisante et consensuelle. Alors là, je voudrais vous prévenir. Je pense que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant est... Alors, je ne peux pas dire certain, puisque vous savez qu'en science, on est sûr de rien. Ce qui fait qu'une pensée est scientifique, c'est précisément qu'elle est déconstructible en droit. C'est-à-dire que tout ce que l'on dit pourra un jour être remplacé par une meilleure théorie. Ça, c'est un lieu commun. Donc, je ne peux pas vous jurer que c'est vrai. Mais je peux vous dire que le niveau de confiance est extrêmement élevé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, là, 40 minutes après le début, moi, je parierais ma vie dessus sans trop d'inquiétude. Quoi. Voilà, je pense que ce sont des choses qui sont quasiment certaines. Disons quasiment, parce qu'on est scientifique, mais enfin quand même, tout ça, moi je pense que c'est extrêmement fiable. À partir de maintenant, c'est important de le dire, je vais vous parler de choses spéculatives. C'est-à-dire que maintenant, on va commencer à migrer, là, pour les derniers quarts d'heure, 20 minutes, vers la science en train de se faire. Et ça encore, vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'ai envie ce soir de parler un peu de l'aspect science et société. Parce que moi, je vois les collègues, alors il y a des collègues qui n'ont aucun scrupule, c'est-à-dire qu'ils vont donner une interview à Science et Vie, ils vont raconter leur propre théorie, qui est certes sérieuse, enfin, il y a un mec qui travaille dessus, comme si c'était la nouvelle vision du monde, ce qui est quand même complètement faux. Parce qu'il y a 99,999% de chances qu'on n'en entende plus parler dans 10 ans. Et à contrario, il y a des collègues qui ne supportent pas qu'on parle aux non-spécialistes d'autre chose que des choses parfaitement établies. Et moi, je crois qu'il faut être entre les deux, il faut être nuancé. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut aussi parler des choses non établies, parce que sinon, on ne parle que de la science ossifiée. Il faut parler de la science en train de se faire. Simplement, il faut expliquer que c'est le cas. C'est-à-dire que je ne peux pas vous présenter... Moi, par exemple, je travaille sur la cosmologie quantique à boucle. Je pense que c'est un bon modèle, mais je ne peux pas vous présenter ça comme si c'était un résultat. Ce serait une imposture. Ce n'est pas le cas. Donc, à partir de maintenant, il est clair que je vais vous parler de choses qui sont incertaines, c'est-à-dire ce sur quoi on est en train de travailler. Alors pourquoi je vais vous parler de ça ? Parce que pour comprendre tous les paradoxes qu'on vient de mentionner, vraisemblablement, la solution consiste à mieux comprendre le microcosme, c'est-à-dire la structure de l'infiniment petit. Parce qu'il y a une articulation très forte, et d'ailleurs Platon déjà au Timée en a vu l'intuition, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors l'infiniment petit... il pourrait être en fait très différent de ce que nos accélérateurs de particules actuels nous laissent entrevoir. Il se pourrait par exemple qu'à des échelles beaucoup plus petites que celles que nous voyons aujourd'hui, la matière soit en réalité constituée de petits élastiques vibrants, ce qu'on appelle des cordes. Alors la théorie des cordes, c'est quand même quelque chose de très impressionnant, parce que c'est une théorie de grande unification, c'est-à-dire qu'elle va tenter de décrire toutes les particules et toutes les interactions qu'il y a dans l'univers, comme résultant de différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales. Donc je pense que la meilleure image qu'on peut donner, c'est celle d'une corde de violon. Hein, imaginez que suivant la position des doigts sur le manche, eh bien, vous pouvez générer toutes les notes de la gamme chromatique. C'est-à-dire qu'avec une corde, vous pouvez jouer toutes les mélodies, en fait. Et c'est un peu pareil en théorie des cordes, avec une corde fondamentale, suivant la manière dont elle vibre, vous pouvez faire des quarks, vous pouvez faire des électrons, vous pouvez faire des photons, vous pouvez même faire des bosons de jauge. Tout ce qu'on connaît dans l'infiniment petit, vous pouvez les générer suivant la manière dont vibrent les cordes fondamentales. En plus, c'est une théorie de gravité quantique, et en plus, c'est une théorie qui a la bonne idée de résoudre des pathologies mathématiques, ce qu'on appelle des divergences dans les calculs d'amplitude. Donc, c'est le messie, quoi. Tout va bien. Le seul petit problème, c'est que cette théorie requiert un certain nombre de choses. Et parmi les choses qu'elle requiert, il y a le fait que l'espace doive avoir 9 dimensions. Alors là, c'est un peu problématique, parce que si vous vivez dans un espace à 9 dimensions, venez me voir à la fin, je suis intéressé. Mais la plupart d'entre nous vivent quand même dans un espace à 3 dimensions, quoi. X, Y, Z. Éventuellement 4 si on compte le temps. Pour la partie spatiale, X, Y, Z, ça fait 3. Et pourtant, la théorie des cordes n'est pas immédiatement falsifiée, parce que les théoriciens ont compris qu'il se pourrait que, en fait, ces dimensions, une partie des 9 dimensions de la théorie des cordes, soit ce qu'on appelle compactifiée, c'est-à-dire recourbée sur elle-même, comme ça. Et donc, qu'elle soit tellement petite que finalement, on ne les voit pas. Alors évidemment, c'est une hypothèse très lourde, mais c'est une hypothèse possible. Et ce qui est intéressant du point de vue cosmologique, c'est que quand on compactifie les dimensions supplémentaires, c'est-à-dire quand on les recourbe sur elles-mêmes, eh bien, il peut en résulter un très grand nombre de lois physiques différentes, émergentes. Ce que ça va induire, c'est une sorte de nouvelle strate, de nouveaux niveaux de diversité. Pourquoi ? Parce que vous savez peut-être qu'on a aujourd'hui de très bonnes raisons de croire que juste après le Big Bang, je vais revenir à la théorie des cordes après, hein, là je fais une parenthèse, mais le lien va apparaître. Donc je disais que juste après le Big Bang, on a de très bonnes raisons de croire, et là je mettrai un indice de fiabilité élevé, que se déroula ce qu'on appelle une phase d'inflation. Donc l'inflation, c'est le fait que la taille de l'univers a augmenté démesurément. En un milliardième de milliardième de milliardième de seconde, les distances ont été multipliées par un facteur de au moins exponentielle 60. C'est gigantesque. Donc l'univers a explosé en quelque sorte en quelques fractions de seconde. Ça, on comprend pourquoi ça a sans doute eu lieu et on a besoin que ça ait eu lieu pour expliquer ce qu'on voit. Donc il est vraisemblable que ça ait eu lieu, que ça se soit passé. Mais le problème, ou la beauté en fait, c'est que quand on la regarde bien, l'inflation ne crée pas un univers, mais plutôt un chapelet, une myriade d'univers bulles. C'est ce qu'on appelle un multivers. Donc multivers, c'est un néologisme qu'on a inventé pour signifier multitude d'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que si la théorie des cordes, j'y reviens donc, est correcte, eh bien la théorie des cordes va en quelque sorte remplir chacun de ces univers avec des lois physiques différentes. Et donc, on va avoir une diversité absolument extraordinaire où non seulement les phénomènes vont différer d'un univers à l'autre, ce qui est assez normal, mais où même les fondamentaux régulateurs, c'est-à-dire les lois, vont se trouver variés d'un univers à l'autre. Alors, moi je pense qu'il faut se poser deux questions à ce stade. Premièrement, qu'est-ce que ça change ? Et deuxièmement, est-ce encore de la science ? Est-ce bien sérieux, cette idée-là ? Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change pas mal de choses. D'abord, permettez-moi l'argument trivial, mais je crois quand même que la physique théorique, ou pas seulement théorique, d'ailleurs la physique en général, c'est pas seulement la science pour créer des téléphones portables. On est bien content d'en avoir, ou pas d'ailleurs, mais on peut l'être. Mais c'est pas que ça, c'est pas que les applications technocratiques. Donc, quand bien même ça n'aurait pas de conséquences directes, le simple fait que ça change le grand récit des origines, je crois que c'est déjà important. Ça change simplement notre vision du monde, et rien que ça, c'est déjà pas tout à fait n'importe quoi. Mais pour être plus précis que ça, ça va même avoir des conséquences, si vous voulez, pour ce qui est de l'évaluation d'une théorie dans notre propre univers. C'est-à-dire que si vous avez un modèle cosmologique qui décrit ce qui s'est passé juste après le Big Bang, eh bien, et que vous comparez ce modèle à ce qu'on voit, ici, chez nous, eh bien, le fait de tenir compte ou pas de l'éventualité de la présence d'autres univers va changer votre conclusion. C'est-à-dire que certaines théories peuvent paraître probables ou improbables suivant le fait que vous intégrez dans votre analyse le fait qu'elles prédisent ou non un chapelet d'univers. Donc ça va avoir des conséquences concrètes, si vous voulez, sur l'évaluation d'un modèle même pour notre univers à nous. Et j'ai un troisième argument un peu indirect. Vous savez qu'il y a un grand problème de physique connu depuis très longtemps, c'est le problème de la coïncidence. Donc il y a beaucoup de paramètres libres en physique, et on se rend compte que si ces paramètres libres avaient des valeurs différentes, probablement la vie n'existerait pas, ou plus précisément la complexité n'existerait pas. Si par exemple le proton était un peu plus lourd, si l'électron était un peu plus léger, etc., si la constante de gravitation était un peu différente, il est vraisemblable que notre univers serait pauvre, c'est-à-dire sans rien, sans structure, un univers absolument homogène, une sorte de grande soupe avec rien dedans. Alors, il y a trois explications à ça. La première, c'est qu'on a peut-être eu un sacré coup de bol. Dans le coup de dé initial, qui a fixé toutes les constantes de la physique, on est peut-être tombé sur la seule solution, parmi des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'autres, qui permettait d'avoir un univers intéressant. C'est possible, mais c'est quand même pas très convaincant. La deuxième solution, c'est ce que les Américains appellent l'intelligent design, c'est-à-dire le fait que l'univers, en réalité, savait où il allait, et a été créé pour que la vie existe. Donc ça, c'est typiquement une solution qui est théologique, c'est-à-dire religieuse, et téléologique, c'est-à-dire finaliste. Bon, pour le dire simplement, l'intelligent design, en gros, c'est l'idée que le monde est comme ça parce que Dieu l'a fait pour que nous existions. Alors, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, mais ce n'est pas une explication scientifique. Je ne peux pas intégrer ça dans un modèle cosmologique. Et donc, la troisième explication, c'est le multivers. Oui, regardez, si vous jouez une fois au loto, vous avez très peu de chances de gagner. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes absolument certain de gagner. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un seul univers, en effet, ce serait un sacré coup de bol que ce soit un univers intéressant pour la vie. Mais si vous avez une infinité d'univers, avec des lois différentes dans tous les univers, alors il est tout à fait inévitable que de temps en temps, il y ait un univers compatible avec la vie. Et comme nous, nous sommes des êtres vivants, forcément, l'univers dans lequel on est, ne peut pas du tout être un univers aléatoire dans le lot. C'est forcément un des univers qui est compatible avec notre existence. C'est exactement comme si vous regardez autour de vous et vous vous dites tout à l'heure en sortant, c'est quand même incroyable que le monde soit constitué d'arbres, de plaines, de pierres. C'est quelle chance. Bah non, en fait, l'univers est essentiellement du vide, ou alors du gaz. Mais simplement, nous, en tant qu'êtres vivants, bah oui, on n'est pas au milieu du vide, évidemment, ni au cœur des étoiles. En tant qu'êtres vivants, notre environnement est une planète tellurique hospitalière. Mais ce n'est pas du tout parce qu'on est là que ce qu'on a autour de nous est représentatif de la totalité de l'univers. C'est un effet de sélection qui est évident, qui est que nous ne pouvons nous trouver que là où nous sommes capables de vivre. Et de la même manière, si vous avez une myriade d'univers avec des lois différentes, il y a un effet de sélection qui fait que l'univers dans lequel on se trouve n'est pas représentatif de l'ensemble. Alors, est-ce que tout ça est bien sérieux ? Est-ce que c'est encore de la science ? Ben, j'en sais rien. Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant. Parce que, bon, tant pis, je fais quelques commentaires un peu polémiques ou politiques même, mais je trouve que le niveau de crispation actuel du débat, en particulier dans les champs politiques, est tellement élevé, avec une intolérance tellement radicale par rapport au point de vue de l'autre, quel que soit l'autre, hein, chacun étant l'autre de l'autre, qu'il y aurait matière quand même à ce que la science puisse jouer un rôle un peu exemplaire de respect par rapport à l'incertitude d'une idée nouvelle. Et je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup de scientifiques sont soit absolument convaincus de l'existence du multivers, et on n'en parle plus, c'est comme ça. D'autres scientifiques pensent au contraire que c'est une idée qui est tellement mauvaise que, pour reprendre les mots de Pauli, elle n'est même pas fausse. C'est Pauli, « not even wrong ». C'est tellement bête que c'est moins que faux. Bon, je trouve ça dommage. Voilà. Je trouve ça dommage parce qu'en réalité, on ne sait pas où on va. Et ce qui est intéressant en science, c'est que trouver les règles du jeu fait partie du jeu. Donc on ne peut pas disqualifier une démarche parce qu'éventuellement, elle oblige à changer un tout petit peu la méthode. Parce que la méthode n'a fait que changer dans l'histoire des sciences. Donc si on fige la méthode scientifique, d'abord, elle n'existe pas. Hein. Vous imaginez bien qu'entre la théorie des cordes et la biologie cellulaire, il n'y a pas beaucoup de rapports. Donc la méthode scientifique n'existe pas. Mais quand bien même on la découvrirait, le fait de la figer serait complètement antinomique avec la possibilité même d'une révolution. Donc si le multivers, et je n'en sais rien, était une révolution comparable à la révolution copernicienne, nouvelle blessure narcissique, hein, après Copernic, Darwin et Freud, notre univers lui-même comme déchu de son piédestal, évidemment, cela nécessiterait vraisemblablement un renouveau de la méthode. Donc ça me semble très contrariant de tuer le renouveau avant même de juger de ce qu'il apporte ou non. Mais au-delà de ces arguments généraux, je pense quand même qu'en plus, ce n'est même pas vraiment de la science très différente. Pourquoi ? Parce que la définition usuelle de la science donnée par Karl Popper, que je crois être très mauvaise d'ailleurs, mais je le prends quand même à titre expérimental, c'est qu'une proposition est scientifique si on peut la mettre en défaut, si on peut la falsifier, disait Popper. Et là, effectivement, si on ne réfléchit pas, on se dit bah, « les autres univers, je ne peux pas y aller, donc je ne peux pas prouver qu'ils n'existent pas, donc ce n'est pas de la science, c'est de la métaphysique ou de la mythologie ». Mais ce n'est pas si vrai, ça. Parce qu'en fait, les autres univers, je ne les invente pas comme ça, en disant « hop, j'ai un modèle, il y a d'autres univers ». Ça, ça ne convaincrait personne. Les autres univers, ils résultent de théories. Et les théories en question, on peut les mettre à l'épreuve sur Terre. Et si ces théories sont falsifiées, c'est-à-dire exclues, alors toutes leurs conséquences, y compris le multivers, s'effondrent avec elles. Une autre manière de le dire, si vous voulez, c'est que vous avez une théorie qui prévoit plein d'univers, vous n'en voyez qu'un. Eh bien oui, c'est plus compliqué de tester cette théorie que si on observe la totalité de l'échantillon. Mais c'est simplement une difficulté de nature quantitative et pas une révolution de nature qualitative. Et ce qui est intéressant, c'est que cette structure de multivers apparaît aujourd'hui dans différents modèles. Donc là, j'ai cité le plus fantastique peut-être et le plus oniriquement riche, c'est-à-dire la conjonction de l'inflation et de la théorie des cordes, mais on peut aussi voir apparaître une structure de multivers en relativité générale, rien que parce que dans un espace possiblement infini, eh bien, on a une infinité d'univers au sens des sphères de Hubble, c'est-à-dire des points en contact causaux. Donc par exemple, on doit trouver nos alter ego à une distance finie, qui est gigantesque, mais qui est finie, qui ont exactement les mêmes passés que nous, donc nos copies conformes, mais pas forcément les mêmes futurs. Donc il y a un monde où vous me laissez finir, et puis il y en a un autre où vous trouvez que ce que je dis est tellement ridicule que vous quittez l'amphi. J'espère que ce n'est pas celui-là. Bon, cool. Mais ça, c'est tout à fait possible. La physique quantique, qui est la théorie de l'infiniment petit, prédit aussi, dans certaines interprétations, la possibilité d'univers parallèle. Et la gravité quantique prédit aussi une forme de multivers comme étant plutôt une sorte de succession temporelle d'univers qui font suite les uns aux autres. Alors tout cela, eh bien, c'est soit une impasse, et nous le saurons dans quelques années, soit au contraire, peut-être les ébauches d'une cosmologie nouvelle qui nous imposera de redéfinir notre rapport au réel et à la pensée scientifique. Voilà. Pour qu'on ait le temps de discuter un peu, je vais m'arrêter là. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, on va prendre du temps pour l'échange, voilà, revenir sur des points qu'il faudrait préciser ou aller un peu au-delà par rapport à ce qu'on a écouté. Donc manifestez-vous, voilà.
Bonsoir. Vous avez parlé de la théorie de cordes. Et en fait, ces cordes, pourquoi elles vibrent? Ça sert à quoi la vibration dans ce cas-là?
En fait, il se trouve qu'en physique quantique, dans une certaine mesure, le repos n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte d'agitation fondamentale des objets. Et comme ces cordes sont extrêmement petites et donc sont associées à une tension qui est extrêmement élevée parce qu'on est au voisinage de ce qu'on appelle l'échelle de Planck, il est en fait impossible qu'elles ne vibrent pas. De la même manière, je prends une analogie, hein, c'est pas la même chose, mais pour sentir que, vous savez, quand en théorie quantique des champs, le vide n'est jamais vide. C'est-à-dire que même là, si on prend un petit bout de l'espace et qu'on retire toutes les molécules, on se dit à la fin, il ne reste plus rien. Eh bien si, il y a des particules qui sont créées ex nihilo par les fluctuations quantiques du vide. Donc de la même manière, si vous voulez, l'état de repos absolu n'est pas en quelque sorte une solution de la théorie. Une autre peut-être manière de le sentir, c'est qu'à cette échelle-là, il n'y a pas de friction, si vous voulez. Donc, donc un objet qui est en mouvement reste indéfiniment en mouvement. Et le fait de ne pas avoir de mouvement est un cas extrêmement particulier. Donc c'est le cas générique, en fait. Voilà.
Si j'ai bien compris, un des arguments du multivers, ce serait l'argument que ça résout le problème du hasard de notre existence. Est-ce qu'il serait possible, vu la taille de l'univers, qu'il y ait d'autres endroits avec des constantes physiques différentes, et que donc sa taille simple puisse aller dans l'argument de « il y a certains endroits où la vie est possible et pas d'autres » ou est-ce qu'on est sûr qu'ailleurs, même infiniment loin, les constantes physiques sont exactement les mêmes?
Justement, donc en fait, ça dépend du type de multivers, tu vois. Si tu prends le multivers, je vais dire, de niveau bas, c'est-à-dire le multivers qui est simplement lié au fait que peut-être, on n'en sait rien, mais peut-être l'espace est infini. Donc si l'espace est infini, mais qu'il est quand même régi par les lois qu'on connaît, là, à ce moment-là, en effet, ce qui va changer, c'est simplement les phénomènes, mais les lois vont rester les mêmes par hypothèse, parce qu'on a un espace qui est décrit par la relativité générale, la théorie des champs. Donc ça, dans ce cas-là, on s'attend en tout cas à avoir des constantes physiques qui sont homogènes. En revanche, dans le cadre de la théorie des cordes, il est tout à fait clair que les constantes physiques changent. C'est-à-dire que quand tu changes les compactifications des dimensions supplémentaires, on appelle ça en mathématiques des espaces de Calabi-Yau, ça va complètement changer tes lois physiques, y compris les constantes fondamentales, qui ne sont plus fondamentales en fait. Donc la constante de Newton, dans le cas du multivers théorie des cordes inflationnaire, la réponse est claire, elle n'a pas la même valeur partout. Et même la constante cosmologique d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer pourquoi, enfin qu'on peut expliquer. C'est une des explications possibles de la valeur mesurée de la constante cosmologique, c'est de dire en fait elle peut valoir n'importe quoi, sauf que essentiellement pour toutes les autres valeurs, ce n'est pas compatible avec l'existence de la vie. Et donc c'est pas du tout qu'elle a cette valeur-là parce qu'on devait exister, c'est qu'elle prend toutes les valeurs possibles dans le multivers, et nous on est effectivement dans une partie où elle a la bonne valeur. Alors ce qui est compliqué, c'est que bien sûr ça ressemble un peu à une démission, parce que d'un seul coup les choses n'apparaissent plus comme étant inéluctables, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de grand hasard quoi, dans tout ça. Mais moi je ne serais pas étonné que ce soit vrai. Je trouve que c'est un peu le sens de l'histoire. C'est un peu comme en biologie, on s'est rendu compte, on appelle ça le paysage en biologie. On s'est rendu compte que le paysage des populations était beaucoup plus vaste que ce qu'on croyait. Et puis finalement, la théorie darwinienne nous a quand même montré que oui, ce sont les mutations aléatoires qui sont à l'origine de la complexité. Je ne serais pas étonné que en fait, cette espèce de nouvelle diversité vienne aussi jouer un rôle quoi, dans le cadre de la cosmologie. Mais on verra, je ne sais pas.
Et donc, juste pour m'assurer que j'ai bien compris, ce que vous dites, c'est que si la théorie de la relativité générale est juste, les constantes qu'on a, qu'on observe, les constantes physiques, sont vraies partout dans tout l'univers, dans notre univers, nous.
Non, enfin, oui et non. c'est pas vraiment si la théorie de la relativité générale est juste, parce que ça, ça veut pas dire grand-chose, parce que finalement, on sait que c'est pas une théorie ultime, donc on sait qu'elle est pas juste, comme n'importe quelle théorie, parce qu'elle est pas quantique, donc ce n'est de toute façon qu'une approximation. Mais la question, c'est pas tellement de savoir si la relativité générale est juste, c'est plutôt la question de savoir si la relativité générale est émergente. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une théorie qui, même si elle n'est qu'une approximation, est absolument universelle, auquel cas là tu t'attendrais à avoir essentiellement les mêmes lois, ou est-ce que en fait la relativité générale est une théorie basse énergie, une réalisation basse énergie d'une théorie plus fondamentale, par exemple la théorie des cordes, qui elle-même a des brisures spontanées de symétrie, qui fait qu'elle peut avoir d'autres réalisations basse énergie. Je pense que c'est plutôt ça la question.
Oui. Moi, j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur la. Qu'est-ce que vous pensez de la vérité, philosophiquement et de façon métaphysique. Si vous pouvez l'exprimer en moins de 5 minutes, là. En gros, est-ce que vous pensez qu'avec toutes les théories que vous venez d'écrire, on avance vers une certaine vérité, ou alors vous pensez, je ne sais pas, comme Montaigne, par exemple, qu'elle appartient à la plus grande puissance, et que plus on avance dans le savoir, et plus cette vérité s'éloigne de nous.
Ouais. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle La vérité dans les sciences. C'est vraiment très compliqué cette question parce que je commence par une petite digression de 30 secondes. Je crois qu'il y a deux écueils. Quand Donald Trump a été élu, on a parlé beaucoup de l'ère de la post-vérité. Pourquoi ? Parce qu'en effet, Donald Trump a dit n'importe quoi et ses conseillers ont dit n'importe quoi. Et donc, il y a eu tout un courant, en particulier de scientifiques, de rappel à l'ordre en disant il ne faut pas dire n'importe quoi parce que c'est dangereux et parce qu'en effet, quand il s'agit de nier le réchauffement climatique, je suis absolument convaincu que c'est effectivement gravissime de le nier parce que nous aurons un paquet de millions ou de milliards de morts sur la conscience en continuant comme ça. Donc, je pense qu'il y a un premier écueil qui est le mensonge généralisé pour arriver à ses fins. Ce qu'ont fait Trump et beaucoup de prédécesseurs dans l'histoire. Et je pense qu'en effet, il est du devoir, même pas des scientifiques en fait, il est du devoir des citoyens que de dire on ne veut pas de ça. Ça, ça va bien. Mais il y a un autre écueil. Et ça me fait peur parce qu'en fait, en jonglant sur cette vague anti-Trump que je partage personnellement, mais les gens font une autre erreur que j'appelle la survérité. Et la survérité, c'est justement l'interdiction de questionner la vérité. C'est vraiment cette idée de « that's a fact ». Oui, parfois c'est vrai. Il y a des choses, en effet, ce sont des faits. Mais ça, généralement, ce ne sont pas les choses très importantes. Il y a aussi énormément de cas où les faits ne sont des faits que relativement à un contexte. Et qu'en changeant le contexte, on change radicalement les faits. Vous voyez 5 minutes de film réel et vous dites, mais l'homme A commis un homicide, a tué l'homme B, il doit aller en prison. Mais peut-être qu'avec 30 secondes de film en plus, vous découvrez qu'en fait, l'homme A est en situation de légitime défense. Et qu'en fait, c'est son agresseur qui méritait bien d'aller en prison. La vérité, il l'a tué. Oui, ça, c'est un fait. Mais on s'intéresse rarement à cette vérité-là. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce fait. Et ce qu'on fait de ce fait, très généralement, est dépendant d'un contexte. Même, je vais faire exprès de prendre un exemple pour me faire du mal à moi-même. Parce que je parlais de Trump. J'aime vraiment pas du tout Trump, que ce soit clair. Mais par exemple, le jour de l'investiture, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, on s'est moqué de lui parce qu'il y avait une photo où il y avait deux fois moins de monde. Et on a dit, regardez, quelle investiture d'Obama. Et on a dit, voilà, regardez comme ce type est impopulaire. Et une des conseillères de Trump a dit, oui, mais attention, parce qu'il y a des faits alternatifs. Et tout le monde lui est tombé dessus en disant, mais non, il n'y a pas de faits alternatifs. Il y avait deux fois moins de gens, il y avait deux fois moins de gens. C'est un fait. Attention quand même, parce que c'est pas le cas en vrai, mais imaginez que la température ait été 20 degrés plus bas et qu'il ait plu. Le fait qu'il y ait deux fois moins de gens ne disait absolument rien de la popularité. Ça pouvait simplement être un effet de la météo. Donc c'est vrai qu'il faut faire un peu attention et dire simplement « that's a fact ». Oui, « that's a fact » qu'il y ait deux fois moins de gens. Mais ce qui nous intéressait, ce n'était pas le « fact ». Ce qui nous intéressait, c'était l'interprétation du fait en termes de mesure de la popularité du président. Et ça, c'est vrai que ça dépend de beaucoup d'autres circonstances que sa popularité réelle. Et donc, il y a un courant scientiste en ce moment qui me paraît aussi nauséabond que la négation de la vérité, c'est l'interdiction de réfléchir sur la vérité et de faire comme si la vérité était une chose qui allait de soi. En Grèce ancienne, la vérité, ça se dit aletheia. Aletheia, en fait, ça ne correspondait pas
contrairement à ce que dit Heidegger, au dévoilement, c'est-à-dire comme ça on retire le voile sur les choses, à l'étéia, ça correspondait à l'anamnèse, c'est-à-dire à la mémoire. La vérité en Grèce, c'était la mémoire, et elle était fondamentalement liée à la rhétorique, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'acception contemporaine. Donc le concept même de vérité a changé avec les époques et a changé avec les cultures. Donc on peut taper du poing sur la table en serrant nos petits poings en disant « moi je veux juste la vérité ». Oui, mais la vérité n'est pas la même pour tout le monde. Ça peut plaire ou déplaire, c'est comme ça. C'est un fait que c'est comme ça. Alors, on pourrait se dire, dans un monde idéal, elle devrait être uniformément, universellement partagée. Peut-être, j'en suis même pas sûr d'ailleurs, peut-être. Mais le monde n'est pas idéal et elle n'est pas uniformément partagée. Et donc, il est absolument indispensable de travailler sur les critères de vérité. Excusez-moi, ça c'était la remarque préliminaire. Je vais faire la réponse plus courte. La réponse plus courte, c'est que la plupart des scientifiques disent « nous n'avons pas la vérité, mais nous nous en rapprochons ». J'aimerais bien que ce soit vrai, mais je crois que c'est faux. Alors, pour la raison suivante. D'un point de vue purement technocratique et heuristique, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en effet, si on s'intéresse à la capacité des modèles à prédire l'avenir, il ne fait aucun doute qu'il y a un progrès, et que si ce qu'on appelle vérité, c'est l'adéquation entre une théorie et une expérience, oui, il y a progrès et on se rapproche de la vérité. Si on veut calculer la position d'un astre dans 3 mois, je préfère qu'on utilise la relativité générale que la théorie de Newton, et je préfère la théorie de Newton à celle des épicycles de Ptolémée. Donc, incontestablement, on est de plus en plus efficace pour prédire les choses. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en revanche, ce qui est intéressant dans cette question, c'est la dimension vraiment ontologique. C'est-à-dire, pour ce qui est de la compréhension de l'être en tant qu'être du réel, progresse-t-on dans la vérité ? Et ça, je pense que c'est absolument intenable. Parce qu'à chaque révolution scientifique, on ne fait pas une petite amélioration. On fait une réécriture complète de la grammaire de la science. Quand on passe de la théorie de Newton à la relativité générale, on ne fait pas une petite correction. On dit, on balaye tout et on recommence. Newton dit, il y a une force qui attire la Terre et la pousse vers le Soleil. Et Einstein dit non, c'est pas que la force elle est un peu différente, il n'y a pas de force, la force égale zéro, force rayée, à la place il y a un espace courbe. Et la prochaine théorie qui va remplacer la relativité générale et que je ne connais pas encore, elle va complètement déconstruire cette idée d'une variété riemannienne continue courbe, par je ne sais pas quoi. Et donc à chaque fois qu'on a un changement de vision du monde, on est infiniment loin de la vision d'avant et de la vision d'après. Et donc, si la vérité existe, ce qui ne me paraît pas du tout aller de soi, si la vérité existe, nous en sommes toujours en réalité infiniment loin. Pour autant, est-ce que ça veut dire que ce qu'on fait n'a aucun sens ? Moi, je ne crois pas. Je pense que cette espèce de pensée de l'instable a quelque chose d'assez jouissif en réalité.
Une question sur le temps. Les multivers, est-ce qu'ils sont tous sur le même temps et en même temps ? Et pourquoi on n'aurait pas un univers en boucle sur lui-même ? C'est-à-dire un Big Bang suivi d'un Big Crunch, un Big Bang suivi d'un Big Crunch, et à la fin, effectivement, un univers habitable.
Oui, bah, vous avez raison. Alors d'abord, en effet, un univers cyclique n'est pas du tout a priori impossible. Hein. En gravité quantique, par exemple, on peut avoir un univers cyclique. Le problème de l'univers cyclique n'est pas tellement théorique, il est plutôt pratique. C'est simplement le fait qu'aujourd'hui, on observe que pour un certain contenu de l'univers, il aurait tout à fait pu se faire que l'univers se recontracte. C'est permis par la théorie, mais ça dépend de ce qu'il y a dedans. Et compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui, bah, il ne se passe pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de ralentir pour recourber, on est au contraire en train d'accélérer de plus en plus vite. Et ça, c'est contingent, ce n'est pas lié à la théorie. La théorie permet de... C'est comme si je vous dis où va atterrir mon stylo. Bah, la théorie ne permet de le dire que si je me donne comme entrée la manière dont je le jette. Et il se trouve que la manière dont l'univers est rempli tend à aujourd'hui nous faire croire qu'en fait, il ne va pas se recontracter. Mais après tout, qui sait ce qui va se passer dans 100 milliards d'années, hein, donc on peut tout à fait penser aussi que l'accélération s'arrêtera et qu'il y aura une recontraction. Donc ça, c'est absolument possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais peut-être un niveau encore plus fondamental dans le sens que vous évoquiez, il y a des théories qui sont sérieuses sur l'émergence du temps. Par exemple, en gravité quantique à boucle, il est tout à fait possible, c'est pas certain encore, on travaille dessus, il y a une controverse dans la communauté, mais il est possible que, quand on était très tôt dans l'histoire de l'univers, en fait, à un certain moment, quand on remonte le temps disparaît. Et à ce moment-là, on a un espace qui, au lieu d'avoir 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps, comme c'est le cas aujourd'hui, on a quatre dimensions d'espace. C'est-à-dire que l'espace est maximalement symétrique, parce que c'est encore plus symétrique d'avoir quatre dimensions d'espace, et en fait, le temps émerge comme une brisure spontanée de symétrie. C'est-à-dire que spontanément, d'un seul coup, et pour des raisons qu'on comprend dynamiquement, le temps apparaît. Mais ça veut dire que dans différents lieux, en fait, le temps pourrait apparaître dans des directions différentes. Donc on pourrait avoir une structure de multivers, en effet, où le temps ne s'écoulerait, où il n'y aurait pas de temps, en fait c'est même le plus probable en fait, qu'il n'y ait pas un temps unique, universel. Il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Là ça devient très compliqué à penser quand même. À calculer c'est plus facile.
Bonsoir. Ma question va peut-être vous paraître naïve, parce que je ne suis pas physicienne, j'ai même une approche très réduite des notions de physique. J'ai plutôt une vision romanesque et poétique de la cosmogonie. Tout à l'heure, vous avez parlé de la recherche de la matière noire dans les accélérateurs de particules, et qu'en fait, on ne l'avait pas trouvée, on n'en avait pas créé, on avait créé autre chose. Peut-on imaginer qu'en fait, on ait réussi à la créer, mais qu'on n'ait jamais su la voir ? J'avais un professeur de philo qui disait que la vraie monstruosité, on peut passer à côté sans jamais la voir, parce qu'elle est tellement différente de nous qu'on ne pourrait jamais l'imaginer ainsi.
Oui, alors c'est pas du tout naïf, hein, évidemment. De toute façon, j'ai l'habitude, quand quelqu'un commence par une question naïve, c'est toujours les pires. Les pires, c'est-à-dire les mieux. Néanmoins, je crois quand même qu'en l'occurrence, on peut répondre. Parce qu'en réalité... précisément, c'est comme ça qu'on la cherchait. Parce que la matière noire, ce qui fait qu'elle est noire, c'est évidemment pas seulement qu'elle est de couleur noire, ce qui, comme vous l'avez compris, est une métaphore. En fait, ce qui fait qu'elle est noire, c'est justement qu'elle interagit très peu avec le reste du monde. Si elle interagissait d'une manière ou d'une autre, on l'aurait déjà vu. Et donc, ces particules de matière noire, on s'attendait précisément à ce qu'elles n'interagissent pas dans le détecteur. Et en réalité, la manière dont on les recherche, c'est pas en essayant de les voir, c'est sous la forme de ce qu'on appelle de l'énergie manquante. Parce qu'il y a une chose qui est conservée en physique, et ça, on sait d'où ça vient, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de remettre en cause, c'est l'énergie. Et donc, E égale mc2, ce n'est qu'une manière de dire la conservation de l'énergie. Et donc, en fait, la manière dont on recherche ces particules de matière noire, ce serait de dire, on a une collision de particules, on connaît l'énergie initiale, puis à la fin, on a des électrons, des protons, des neutrinos, enfin tout ce qu'on connaît, on fait la somme des énergies de tout ça, et on a moins d'énergie à la fin que ce qu'on avait au départ. Et donc là, on se dirait, il est bien possible que l'énergie qu'on ne voit pas, elle soit sous la forme d'une particule de matière noire. Mais ceci n'advient pas. Quand on regarde les événements physiques, les milliards d'événements physiques faits au LHC, l'énergie est toujours conservée. C'est-à-dire que l'énergie qu'on voit dans les particules connues est exactement égale à l'énergie qu'il y avait avant la collision. Et donc, ça paraît très dur de croire qu'on ait pu les former sans les voir, parce qu'il faudrait qu'elles aient une énergie nulle. Et ça, en fait, en physique, ça revient à dire qu'elles n'existent pas. Parce que sans énergie, il n'y a pas de capacité d'être, quoi. Mais en effet, c'est en suivant la méthode que vous évoquez qu'elles sont traquées. Après, en un sens peut-être plus profond et qui est lié quand même à ce que vous dites, il y a une chose que j'avais passée sous silence. C'est que j'ai présenté plein de problèmes en disant on va essayer de les résoudre, un à un. Mais il y a une autre possibilité, et qui est, je pense, un peu dans la fibre de ce que vous laissez entendre, c'est que peut-être qu'en réalité, tous ces problèmes ne sont qu'un seul problème, qui est que globalement, le paradigme est faux. Et ça, c'est une chose qu'on n'arrive pas à penser. Parce qu'aujourd'hui, on se dit il y a de la matière noire, il y a de l'énergie noire, il y a... des trous noirs, puis il y a encore d'autres problèmes que je ne vous ai pas dit sur la singularité, sur la symétrie de CP, etc. Et on se dit, bon, on va résoudre tout ça les uns après les autres. Mais en fait, peut-être que tous ces problèmes sont des artefacts et qu'en réalité, c'est le modèle lui-même du Big Bang qu'il faut déconstruire et qu'il faut remplacer par autre chose. Et qu'en les remplaçant par autre chose, tout se résoudra d'un coup parce qu'ils ne se poseront plus comme des problèmes dans le nouveau cadre. Donc ça, on le sait que c'est possible. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le dire, quoi. Il faut inventer la nouvelle théorie géniale. Et ça... Si vous avez une idée, venez me voir. On partagera le prix Nobel.
Je n'ai pas compris le lien que vous avez fait entre les dimensions qui seraient bouclées sur elles-mêmes et le multivers.
Oui, en effet, j'étais un peu obscur là. Donc en fait, tu as raison, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le multivers lui-même n'a rien à voir avec les dimensions bouclées sur elles-mêmes. Le cas dans lequel j'ai présenté ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc l'inflation, alors ça, je prends 30 secondes pour vous expliquer pourquoi. Pour faire de l'inflation, en gros, il faut qu'il y ait un objet, on appelle ça un champ scalaire, on s'en fout, qui soit quelque part sur un potentiel. Bon. Et en fait, en gros, ce machin-là, il fluctue. S'il fluctue vers le bas, l'inflation s'arrête. S'il fluctue vers le haut, l'inflation continue. Donc imagine qu'au départ, il est là. Et puis, c'est aléatoire. Donc, quelque part, par exemple, ici, dans notre monde à nous, il a fluctué vers le bas, l'inflation s'est arrêtée, et puis on a commencé à faire des étoiles, des planètes, des humains, des animaux, et on est content. Mais autre part, il a fluctué vers le haut. Et quand il a fluctué vers le haut, l'espace a continué de grandir exponentiellement. Alors, il y a une chance sur deux qu'il aille vers le haut ou vers le bas. Sauf que quand il va vers le bas, l'espace s'arrête de grandir. Donc on fait un petit univers. Mais quand il va vers le haut, l'espace grandit exponentiellement. Donc tu vois qu'en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Parce que les zones où il fluctue vers le haut vont automatiquement être exponentiellement plus nombreuses que les zones où il fluctue vers le bas, puisque ce sont des zones qui s'autorépliquent, alors que les autres ne s'autorépliquent pas. Donc ça, c'est pour comprendre intuitivement pourquoi le processus d'inflation est éternel. Et c'est ce processus d'inflation-là qui va peut-être générer le multivers. Donc ça n'a rien à voir avec la théorie des cordes, en fait. Le multivers, il vient simplement de ce que l'inflation va avoir tendance à créer une myriade d'univers. La théorie des cordes, elle intervient après dans l'argument pour dire, dans chacun de ces univers, les dimensions supplémentaires courbées, ce que ça va faire, c'est que ça va éventuellement structurer chacun de ces univers avec des lois différentes. Parce que dans les manières de courber les dimensions, je vais le faire différemment dans chacun des mondes, parce que c'est des choses qui vont avoir lieu à la fin de l'inflation. Et comme je le fais différemment, je vais avoir des lois qui vont différer. Donc les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes n'interviennent pas stricto sensu pour expliquer le multivers, elles interviennent pour conférer au multivers une diversité de lois. Et mon avis, qui n'engage que moi, c'est que le multivers de l'inflation, le fait que l'inflation crée un multivers est relativement fiable, alors que la théorie des cordes, c'est très dur. C'est une très très belle théorie du point de vue mathématique, mais en 45 ans, elle n'a quand même pas été capable de faire la moindre prédiction, donc c'est compliqué. Le statut de la théorie des cordes aujourd'hui est très compliqué. Ça reste très étudié, c'est pas du tout exclu, mais on ne peut pas dire non plus que les succès s'amoncellent.
Bonsoir. Et où on est actuellement à la théorie la théorie quantique à boucle ?
Oui, donc c'est l'autre modèle que j'ai mentionné une fois ou deux, la gravité quantique à boucle. Donc je suis un peu biaisé, puisque moi je travaille sur ce modèle, qui a été inventé par Carlo Rovelli et Lise Molline il y a 25 ans. Pour être très honnête, ça ne va pas beaucoup mieux, quoi, en fait. C'est-à-dire que le modèle se porte bien en termes mathématiques, il est bien développé, il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent dessus. On arrive à faire des calculs qui montrent que tout va plutôt pas mal, mais nous sommes finalement tout aussi incapable de faire une prédiction très claire où on dit voilà, l'expérience qui va marcher dans 2 ans, on doit observer ça. On n'y arrive pas. Et la raison pour laquelle on n'y arrive pas est assez simple à comprendre, c'est que ce soit la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle ou autre chose, en fait, la taille caractéristique des atomes d'espace ou des cordes, la longueur caractéristique à laquelle la théorie devient importante, est environ 1 million de milliards de fois plus petit que la plus petite distance vue actuellement, qui est celle du LHC. Et moi, je dirais que de mon vivant, c'est-à-dire si tout se passe bien dans les, 40 ou 50 prochaines années, je peux espérer voir, et encore, si les gouvernements se mettent d'accord, une génération d'accélérateurs meilleure que le LHC. Et si elle est meilleure, elle sera meilleure d'un facteur 10 à peu près. Déjà, un facteur 10, c'est optimiste. Ça veut dire qu'on verra 10 fois plus petit. Mais l'échelle qu'on voudrait voir, c'est 1 million de milliards de fois plus petit. Donc, c'est super dur à voir. Et donc, oui, la gravité quantique à boucle permet d'expliquer plein de choses sur les trous noirs, sur l'origine de l'univers, etc. Mais d'un point de vue expérimental, elle n'est ni plus ni moins corroborée que la théorie des cordes, quoi. Mais il y a une vraie volonté, en fait, des communautés d'aller vers l'expérience. Maintenant, les physiciens en ont ras-le-bol de faire des calculs. Donc les gens veulent calculer des choses observables. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le vouloir, quoi. Il faut y arriver.
Vous avez dit travailler sur la gravité quantique à boucle, mais vous avez choisi de vulgariser uniquement la théorie des cordes. J'aurais voulu savoir pourquoi.
Parce que je suis un mec bien. Donc je viens pas faire du prosélytisme pour mes propres intérêts. Non, mais c'est vrai en plus. Je sais pas, je trouve ça un peu vulgaire de voir les gens qui ne parlent toujours que pour leur chapelle. Une autre fois, j'aurais parlé de la gravité à boucle. J'ai un peu improvisé, écoute. Mais j'aime bien, hein. Je pourrais en parler. Voilà. J'ai pas de vraie raison. Non, peut-être, donc du coup, je redis quand même deux, trois phrases, puisque tu m'y incites implicitement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la gravité quantique à boucle, c'est une approche qui est plus modeste que la théorie des cordes, au sens où elle n'est pas une théorie de grande unification. Elle n'explique rien sur les particules élémentaires, elle n'explique rien sur les interactions fondamentales. Donc, ce n'est pas une théorie qui veut tout unifier. C'est juste, mais c'est déjà énorme, hein, une théorie qui essaye de concilier la physique quantique, qui est l'infiniment petit, avec la relativité générale, qui est l'infiniment grand. Ce serait déjà, oui, ça fait, Einstein a passé 30 ans de sa vie à essayer de le faire sans succès, hein, c'est pas si simple. Mais c'est moins ambitieux que la théorie des cordes. Mais du coup, c'est aussi moins coûteux en hypothèse. Donc il n'y a pas de dimension supplémentaire, il n'y a pas de supersymétrie, enfin toutes ces réquisites comme ça, très lourdes de la théorie des cordes, ne sont pas présents. Donc certains pensent que c'est meilleur, d'autres que c'est moins bon. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est aussi une manière de montrer que les choix scientifiques sont en grande partie esthétiques en réalité. Hein. C'est pas étonnant que la plupart des gens qui travaillent en gravité quantique à boucle sont des gens qui ont une culture de relativité générale. Et la plupart des gens qui travaillent en théorie des cordes sont des gens qui ont une culture de physique des particules. Donc, suivant d'où on vient, eh ben, souvent, on va dans un secteur ou dans un autre. La conséquence essentielle de cette théorie, c'est que l'espace serait en quelque sorte composé de petits atomes d'espace. Vous voyez, de même que la table est composée de petits atomes de matière, eh ben, l'espace, même l'espace vide, hein, serait composé de petites briques fondamentales d'espace vide, comme ça. Et la conséquence, quand on l'applique à l'univers, c'est qu'il n'y aurait pas eu un Big Bang, mais un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond, et qu'en amont de ce rebond, il y aurait eu une phase de contraction de l'univers. Voilà. Qui aura ensuite donné naissance à la phase d'expansion dans laquelle on est. Donc moi, mon travail, c'est justement d'essayer de calculer des conséquences dans notre univers de la phase qui aurait eu lieu avant le rebond. Le problème, c'est que le rebond, c'est un phénomène très puissant et ça a tendance à tout effacer. Donc ce n'est pas très facile.
Oui, moi, ce que j'ai un peu en tête, c'était essayer de comprendre la différence entre un trou noir, forcément extrêmement grand, et l'état initial un peu du monde quelques milliardièmes de secondes après le Big Bang initial. C'est-à-dire, est-ce que dans cette phase d'inflation, il n'y a pas un moment où les conditions auraient dû donner naissance en fait à un trou noir, c'est-à-dire les conditions de densité et peut-être de chaleur ou de pression?
Oui. Donc d'abord peut-être, quand vous dites qu'un trou noir c'est toujours très grand, ça dépend ce qu'on appelle grand, mais c'est quand même très petit par rapport à tous les autres objets astrophysiques, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que le Soleil par exemple, il a un diamètre d'environ 1 million de kilomètres en tant qu'étoile, et pour faire un trou noir, il faudrait qu'il soit comprimé dans 1 kilomètre à peu près. Donc, c'est quelque chose d'assez petit. La Terre, pour faire un trou noir, il faudrait qu'elle soit comprimée dans quelques millimètres. Donc c'est quand même des objets petits les trous noirs, mais grands par rapport aux atomes. Alors ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que si on prend la densité de l'univers primordial, on devrait faire un trou noir. La raison pour laquelle on n'est pas un trou noir, c'est qu'il faut tenir compte de la vitesse. C'est-à-dire que ça, c'est la densité au repos. C'est-à-dire que si vous prenez de la matière usuelle autour de vous et vous la comprimez, par exemple, à la densité qu'il y avait dans l'univers juste avant l'inflation, en effet, cette matière, si on en prend en plus une grande partie, va s'effondrer en trou noir. Mais ça, c'est parce que la matière est statique, elle est au repos. Si maintenant vous prenez la même matière, mais avec une vitesse extrêmement importante vers l'extérieur, ça ne fait plus un trou noir. Et c'est pour ça que la densité n'est pas le seul paramètre. La densité est le seul paramètre si vous prenez un nuage de gaz non relativiste. Si vous prenez de la matière en expansion relativiste vers l'extérieur, c'est tout à fait normal de ne pas avoir fait un trou noir à partir de l'univers primordial. En revanche, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quand même, localement, comme ça, des petites zones de l'espace qui soient des espèces de surdensité locale, qui se découplent un peu de l'expansion et qui forment des trous noirs. Ça, c'est tout à fait possible. On appelle ça des trous noirs primordiaux. Ça fait 30 ans qu'on les cherche, sans succès, mais c'est pas parce qu'on ne les a pas vus qu'ils n'existent pas. Et ça, c'est tout à fait correct. Il est possible que des petits trous noirs se soient formés juste après le Big Bang. Jusqu'à maintenant, nous n'en avons vu aucun. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est un champ de recherche bien, bien défini, hein. Il y a vraiment des gens qui travaillent à temps plein sur cette question.
Bonsoir. Je voulais aussi en revenir sur les trous noirs. C'est-à-dire, quelles hypothèses pensez-vous est-ce que vous pouvez en revenir sur les hypothèses sur lesquels les trous noirs ont un état irréversible.
Oui. Alors, en effet, j'ai un peu menti, comme toujours, parce qu'il faut simplifier. En théorie classique de la gravitation, qu'elle soit newtonienne ou einsteinienne, rien ne peut sortir d'un trou noir par définition. En fait. Par définition, parce que finalement, ce qui fait qu'on a un trou noir, c'est que la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse qu'il faut pour s'échapper, est plus grande que la vitesse de la lumière. Or, on ne peut pas aller plus vite que la lumière, donc rien ne peut sortir. Quelque part, c'est la définition d'un trou noir. Et au-delà de cette définition intuitive, c'est aussi ce que montre en effet la théorie d'Einstein, ce qu'on appelle la métrique de Schwarzschild, qui décrit la structure de l'espace-temps autour d'un trou noir. C'est très facile, en quelques lignes de calcul, on peut montrer que par exemple, si tu vas dans un trou noir, donc tu as le centre qui est là, tu as l'horizon qui est là, et tu émets deux flashs de lumière, un flash vers l'extérieur, un flash vers l'intérieur, bah, en fait, les deux vont vers l'intérieur. Que même le flash de lumière qui est émis vers l'extérieur, comme il y a une espèce de tapis roulant d'espace comme ça qui glisse vers le centre, même le flash de lumière qui est émis vers l'extérieur, en réalité, il va vers l'intérieur. Donc ça, c'est bien clair. Mais pourquoi je dis que j'ai menti ? Parce que ça, c'est la vision classique. Or, comme tu sais, on a deux grandes théories en physique. Il y a celle-là, et puis il y a la théorie de l'infiniment petit qu'on appelle la mécanique quantique. Et la mécanique quantique vient toujours nous montrer que ce qu'on croit vrai est en fait faux. Alors, si on parle des gros trous noirs, ceux qui proviennent de l'effondrement des étoiles, on peut complètement oublier la mécanique quantique. Elle a un effet négligeable, et donc ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, et ce que tout le monde sait, on ne peut pas sortir d'un trou noir, reste vrai. Et donc, en effet, il n'y a pas de processus inverse. On forme le trou noir, et il ne peut jamais se déformer. Ça, c'est complètement vrai pour les gros trous noirs. Mais pour les petits trous noirs, les effets de mécanique quantique commencent à devenir importants. Et le fait qu'ils deviennent importants, ça va induire un phénomène qu'on appelle l'évaporation des trous noirs. C'est en particulier ce sur quoi a travaillé Stephen Hawking quand il était jeune. Alors évidemment, évaporation, comme vous le comprenez, ça va complètement en contradiction avec ce qu'on avait dit avant. Parce qu'avant, on a dit rien ne peut sortir, et là on dit il s'évapore. Bah, donc s'il s'évapore, c'est que la matière ressort. Bah oui. S'il s'évapore, c'est que la matière ressort. Et donc, il y a eu un espoir que peut-être l'information n'était pas perdue et que l'évaporation des trous noirs allait en quelque sorte restituer l'information perdue vers l'extérieur. Mais en fait, il n'en est rien, parce que les calculs, au moins les plus simples, tentent à montrer que la manière dont s'évaporent les trous noirs est complètement indépendante de ce qui les a formés. C'est-à-dire que, tu vois, t'as un petit trou noir, là, était son état initial, il semble qu'il va s'évaporer de la même manière. Et donc, en fait, le fait qu'un trou noir puisse restituer de la matière vers l'extérieur ne semble pas résoudre le problème de l'information. Et la matière qu'il restitue n'est pas forcément celle qui l'a formée, pour le dire autrement. Même si vous le formez qu'avec des protons, quand il va s'évaporer, il va quand même émettre des électrons. Voilà, pour le dire de façon caricaturale, c'est ça le problème.
Bonsoir. Je trouve que vous vulgarisez vachement bien toutes vos théories. Moi, je me pose une question toute bête. En dehors de faire des conférences comme ça, qu'est-ce que vous faites le matin quand vous allez au boulot pour avancer sur votre théorie, pour valider votre théorie ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des mathématiques ? Vous réfléchissez sous la douche ? Qu'est-ce que vous faites ?
Bah, déjà, quand je me rase, je me demande pas si je veux devenir président. Ça, c'est une première chose. tu vois, tout à l'heure, donc moi j'habite à Grenoble, donc pour venir à Poitiers, j'ai fait une escale à Paris, et j'avais 2 heures gare Montparnasse pour prendre mon train pour venir ici. Bon, 2 heures c'est confortable, donc je me suis installé dans un café, évidemment j'ai raté mon train, parce que j'étais en train de faire des calculs, et donc j'ai raté le train, mais je suis quand même arrivé à temps. Bon, peut-être mon cas personnel, il n'est pas très intéressant, mais en effet, pour faire progresser cette science-là, comme tu l'as dit, il y a essentiellement 2 manières de le faire, soit en tant qu'expérimentateur, soit en tant que théoricien. Moi, je crois que vraiment les deux doivent être valorisés parce que parfois les étudiants, je ne sais pas du tout si c'est ton cas, hein, les étudiants en sciences ont un peu une vision idéalisée de la physique théorique comme étant la physique vraiment créative, quoi. Et je pense que ce n'est pas vrai, même si moi-même je suis plutôt théoricien. Mais je pense que ce n'est pas vrai parce que quand tu regardes ce qui a fait vraiment progresser les choses dans les 30 dernières années, c'est presque que des avancées expérimentales en réalité. Et aujourd'hui, arriver à mesurer les fluctuations à une amplitude de 10-5 dans les ondes acoustiques du rayonnement cosmologique fossile, c'est une prouesse expérimentale qui est d'une beauté mais extraordinaire et qui en plus quand même recèle des informations extraordinaires. Donc pour aller de l'avant en gravité quantique ou sur l'origine de l'univers, aujourd'hui ce qu'on a besoin de voir, c'est pas seulement les ondes acoustiques dans le rayonnement cosmologique, mais c'est aussi leur polarisation. Donc la lumière a l'idée d'être polarisée, elle vibre d'une certaine manière, plus exactement leur mode B de polarisation qui correspond à ce qu'on appelle le mode tenseur, supérieures et donc aux ondes gravitationnelles primordiales. Donc au niveau expérimental, on sait très bien ce qu'on aimerait. C'est très cher, c'est très compliqué, donc je ne sais pas si ça va se faire. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de créer cette expérience et c'est très compliqué à faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le financement, il y a vraiment une inventivité expérimentale à avoir et ensuite une inventivité au niveau de l'analyse des données. Moi, en effet, je suis quand même plutôt maintenant du côté de la physique théorique, donc en effet, plutôt des calculs. Mais finalement, les calculs, ce n'est pas la grosse partie du travail, parce que mathématiquement, ce n'est pas très dur. En fait. Enfin, pour un mathématicien professionnel, c'est de la rigolade ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas tellement résoudre les équations qui est compliqué. De toute façon, on a des programmes pour ça. Ce qui est plutôt compliqué, c'est de se poser les bonnes questions et de trouver les bonnes approximations. Parce que, tu vois, un étudiant en physique, quand il regarde un problème de mécanique quantique, en fait, comme on l'a fait pour de vrai le problème, on sait d'avance quelles sont les approximations qui sont valables. Mais quand on parle de l'origine de l'univers, on peut pas refaire l'expérience. Et donc, tu es complètement en aveugle. Tu as une théorie qui est hyper compliquée. La gravité quantique à boucle, c'est parce que je voulais présenter les petits atomes d'espace, mais en vrai, c'est des réseaux de spins avec des liens qui sont colorés par des représentations irréductibles de groupes de symétrie dans les matrices spéciales unitaires d'ordre 2, avec des intertwiners, etc. Donc, c'est pas très cool. Il faut que tu coupes à la hache dans ces théories très compliquées pour réussir à calculer quelque chose. Et là, le problème, c'est que tu n'as aucun guide. Alors, tu fais des approximations et après, tu trouves des résultats. Mais tu te rends compte que si tu fais d'autres approximations, tu trouves d'autres résultats. Et là, je trouve que la partie créative du jeu, ce n'est pas tellement de calculer les résultats modulo les approximations, c'est plutôt de trouver quelles sont les approximations raisonnables. Et parfois, on se rend compte que toute une communauté a oublié des trucs, mais énormes, quoi. Moi, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que, par exemple, en cosmologie quantique à boucle, on n'avait quasiment pas tenu compte du fait que les tailles physiques des ondulations dans l'univers au moment du rebond étaient très, 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 très largement transplanquiennes, ce qui est complètement autocontradictoire avec la théorie elle-même, par exemple. Donc, ça arrive. Les gens font des calculs très sophistiqués et ils ne se rendent pas compte qu'il y a des énormes faiblesses dans notre secteur de la théorie. Et l'autre part de créativité, c'est d'essayer de trouver de nouveaux objets auxquels les appliquer. Donc, pas seulement essayer de regarder dans l'univers primordial. Moi, par exemple, la moins mauvaise idée que j'ai eue dans les dernières années, c'était je me suis rendu compte que quand l'univers était en contraction, si c'est vrai, il se passe un phénomène très très bizarre qui est que si tu as une étoile qui est plus loin, tu la vois plus brillante en fait. C'est-à-dire que la contraction de l'univers fait une sorte d'amplification de la lumière qui fait qu'un phénomène, oui c'est ça, plus le phénomène a eu lieu tôt dans le passé par rapport à l'observateur, plus en fait il va être visible intensément par l'observateur. Parce que la contraction de l'univers surcompense l'expansion de l'onde. Donc l'onde se dilue, mais comme l'univers se contracte, en fait ça peut se compenser. Et donc en utilisant ça, il pourrait y avoir des espèces de traces comme ça sous forme d'ondes gravitationnelles de phénomènes dans la branche d'avant le rebond. Bon, la vérité, c'est que presque tout est faux, mais à force d'avoir des idées fausses, ben, un jour, on aura de la chance, quoi. On aura une...
Dans le choix de vos tranchées à la hache, là, est-ce que la beauté peut être un guide ? Et dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas une tromperie anthropocentrique ?
Bah oui, bah je ne sais pas. Vous savez, il y a un grand mathématicien, Atiya, Medai Fields, hein, qui a une très belle phrase. Il a dit, en mathématiques, il faut suivre la beauté et la vérité. Mais, en cas de doute, choisir la beauté. Et en fait, j'aime beaucoup cette phrase parce que... évidemment, le mathématicien n'était pas en train de dire c'est pas grave si vous faites des fautes tant que c'est beau, hein, bien sûr que non. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que parfois il y a une sorte d'intuition mathématique de la beauté qui est tellement puissante que peut-être qu'il faut mieux quand même suivre cette intuition parce qu'il se pourrait que l'erreur apparente ou que l'inconsistance apparente puisse être résolue en changeant un peu le contexte, donc la structure mathématique dans laquelle on est en train de penser. Et donc, ce qu'il voulait dire en fait, c'est que les critères de vérité, bien sûr, quand on les décide, il faut s'y tenir, mais que même en mathématiques, on peut quand même changer les critères de vérité. Les lois de la logique, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les lois de la logique aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'Aristote. Donc les fondements des mathématiques ont évolué avec le temps. Et donc, de temps en temps, il faut faire une violence comme ça aux lois de la logique et puis s'autoriser ou à la théorie des ensembles, s'autoriser autre chose. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que, bien sûr que dans les choix qu'on fait, la beauté joue un rôle énorme. Et en même temps, comme vous venez de le dire, la beauté, c'est un critère qui est éminemment subjectif, qui est profondément humain, qui est très culturel. Et donc, ça peut être un très mauvais guide, en réalité. Moi, je peux juste dire que ce qui me rassure, et je le vois tout le temps quand on parle aussi bien de... Mais pas seulement d'art, par exemple, qu'il y a une diversité de goûts, ça, c'est, tout le monde le sait, mais même quand on parle de politique, par exemple. Moi, ça m'intéresse énormément, parce que les gens se disputent. Hein, c'est la meilleure façon que le dîner de Noël se finisse mal, quoi, si on commence à parler de politique. Et pourtant, quand même, la plupart des gens ne sont quand même pas des salauds finis. Donc, concrètement, la plupart des gens ont quand même plutôt envie qu'on soit heureux, quoi, qu'on se respecte, que ça se passe plutôt bien l'avenir. Et avec ce même désir, on a des analyses radicalement différentes sur ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et donc ça, alors ça m'inquiète un peu par certains aspects, mais ça me rassure par d'autres, parce que je me rends compte que derrière le mot beauté, on met des choses tellement différentes que finalement, même si on l'utilise comme guide, en fait, ça ne préjuge pas du tout la diversité en réalité. Mais voilà, je sais pas.
Mon interrogation recoupe un petit peu la question que monsieur vient de poser. Dans votre laboratoire de recherche, est-ce que vous réfléchissez et discutez qu'entre physiciens, ou est-ce que vous acceptez aussi de discuter et le regard de personnes autres, un artiste, un poète, un cinéaste, un romancier, qui puisse voir les choses sous un autre angle qui pourrait vous faire un pas de côté ?
Alors, j'ai plusieurs réponses. Alors, d'abord, moi, à titre personnel, mais enfin, on s'en fout un peu, mais puisqu'il est tard, on peut se faire les confidences. Je travaille avec des poètes. Il y a un petit livre qui va sortir très bientôt. Et là, après-demain, je serai à Paris pour travailler avec Claire Denis, qui est une réalisatrice de cinéma et qui est une amie. On est en train de faire un film ensemble. Donc, ces interactions existent. Mais là où peut-être je vais vous décevoir un peu, c'est sur la nature de ces interactions. C'est-à-dire que moi, je suis ravi d'essayer d'aider un peu Claire à faire du cinéma et d'aider Mathieu Brochot à faire de la poésie, même s'ils n'ont pas du tout besoin de moi, mais voilà. On fait partie du réel, donc on peut toujours apporter un infime. Je crois pas que ça puisse marcher. Voilà. Je crois pas que vous puissiez venir dans mon laboratoire. Non, mais je le dis vrai. En fait, j'aimerais que ce soit faux, en fait. Enfin, j'aimerais que ce soit vrai, que ça marche. J'adorerais ça, mais je crois pas. Voilà. Je crois pas parce que ça marche pas comme ça, en fait. Ça marche pas sur une espèce d'intuition où d'un seul coup, hop, on tombe comme ça et puis on voit une feuille et on se dit « Ah, mais peut-être qu'il faut voir les choses autrement. » Parce que le réseau de contraintes est tellement compliqué, tellement fort, avec des contraintes dans tous les sens, de renormalisabilité, etc., qui sont extrêmement techniques. Et c'est ça notre règle du jeu. Bien sûr qu'il peut y avoir, tout peut être source d'inspiration. Absolument tout. Donc j'imagine, je ne sais pas moi, que si Jean-Sébastien Bach avait eu connaissance de la théorie des cordes, il aurait peut-être écrit une fugue un peu différente. Mais n'empêche que je ne crois quand même pas qu'un théoricien des cordes lui aurait dit « bah voilà comment tu dois écrire ta fugue ». La science fait partie du réel, la poésie fait partie du réel, et heureusement, ces deux disciplines peuvent, de temps en temps, comme ça, se frôler, et l'une peut enrichir l'autre. Mais dire, voilà, demain, quand je vais faire mes calculs, je vais inviter quelqu'un qui n'y connaît rien et je vais voir comment il peut m'aider, je pense que ce n'est pas possible, en fait.
Oui, bonsoir. Je me suis posé une question sur les trous noirs. Si vous comparez un petit trou noir et un grand trou noir et que vous êtes sur l'horizon... le petit trou noir déforme plus l'espace que le grand. Pourtant, il a une masse plus petite, donc ça semble contradictoire.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et je peux vous l'expliquer simplement. Ce que monsieur vient de dire, enfin, c'est très clair, je ne sais pas que je le répète, c'est qu'en effet, la gravité à la surface d'un trou noir est d'autant plus grande que le trou noir est petit, et donc d'autant plus grande que le trou noir est léger. Alors évidemment, ça a l'air bizarre, mais ce qui est génial, il n'y a pas de tableau, mais bon, ce qui est génial, c'est que je n'ai même pas besoin de relativité générale, on peut l'expliquer en termes purement newtoniens. Donc même si vous n'êtes pas scientifique, peut-être vous vous souvenez quand même qu'au lycée, si tout se passe bien, vous avez appris que la force gravitationnelle de Newton, hein, donc le truc vraiment canal historique, c'est proportionnel à la masse divisée par le carré de la distance. La force, le champ gravitationnel créé par la Terre, il est proportionnel à la masse de la Terre divisé par le carré de la distance à laquelle vous vous situez. Et en fait, la réponse vient juste de là. C'est que l'horizon d'un trou noir, la taille d'un trou noir, est proportionnelle à sa masse. Donc, si on prend un trou noir plus petit, vous allez vous dire, la force de Newton, c'est m sur R2. Bah, comme il est plus petit, il est plus léger, donc le terme m est plus petit. Donc, en effet, on a l'impression qu'on perd, puisque la masse est plus petite, donc la force est plus petite. Oui, mais sauf qu'en même temps, l'horizon est plus près. Et donc, si vous vous mettez à la surface, comme l'horizon est elle aussi linéaire en m, mais que vous avez une force qui est 1 sur r carré, vous gagnez quadratiquement par rapport à la distance, du fait que vous êtes plus près. Donc vous perdez linéairement en masse, mais vous gagnez quadratiquement en distance. Donc vous avez intérêt à prendre un trou noir petit. Bon, je sens que je n'ai pas été très clair. En gros, vous avez m divisé par r carré. Mais pour un trou noir, le rayon est égal à la masse. Voilà. Donc m divisé par r carré, en fait, ça fait m divisé par m carré. Et m divisé par m carré, ça fait 1 sur m. Et 1 sur m est grand quand m est petit. C'était mieux ? On fait ce qu'on peut. Hein.
Excusez-moi, oui. Non, pardon. Je voulais savoir s'il y avait des pistes de compréhension pour la matière noire.
Alors, il y en a, la question, c'est y en a-t-il des bonnes ? Parce que, en fait, la matière noire, il y avait vraiment, vraiment, vraiment une hypothèse ultra dominante qui était la favorite de 99% des physiciens. Et cette hypothèse, elle avait une origine. Alors, ça, quand même, je prends 30 secondes pour expliquer ça, c'est très beau. La physique des particules marche plutôt pas mal, mais elle a plein de problèmes quand même. Et on avait une théorie qui permettait de résoudre tous les problèmes qui s'appelle la supersymétrie. La supersymétrie, c'était une théorie qui permettait de faire mieux que ce qu'on appelait le modèle standard de la physique des particules. Elle avait un intérêt esthétique, parce qu'elle crée un lien entre les particules et les forces, alors que jusqu'à maintenant, le monde des objets et le monde des interactions étaient disjoints. Et elle mettait les objets et les interactions sur un pied d'égalité. Ça, c'était vraiment très beau. Elle avait un intérêt mathématique, parce que les divergences, c'est-à-dire les infinis qui apparaissaient dans la théorie, étaient résolus. Elle avait un intérêt cosmologique, parce qu'elle permettait effectivement de prédire l'existence de particules qui étaient exactement adaptées pour la matière noire. Elle avait un intérêt heuristique, parce qu'elle permettait d'expliquer la masse du boson de Higgs, qui jusqu'à maintenant n'est pas du tout expliqué. Elle avait un intérêt presque onirique, au sens où elle était prédite par la théorie des cordes. Il y avait énormément d'arguments pour la supersymétrie, au point où elle pouvait difficilement être fausse. Mais il se trouve que ça ne marche pas. Et en fait, je trouve ça très beau, parce que... C'est un peu la preuve en négatif de ce que la science n'est pas qu'une simple quand même projection de nos fantasmes. C'est-à-dire que tout le monde y croyait, c'était magnifique, ça aurait permis d'avoir de magnifiques financements, et en même temps, la nature nous dit « votre théorie, elle est superbe, mais elle est fausse ». C'est pas ça, il faut trouver autre chose. Et donc, la meilleure piste pour la matière noire, c'était celle-là. C'était l'explication produite par la supersymétrie. 99% des théoriciens pensaient que c'était ça qui allait expliquer la matière noire. Ce n'est pas totalement exclu à l'heure actuelle, mais c'est quand même très mal parti. Disons que si c'était vrai, on aurait dû déjà le voir dans l'accélérateur de Genève. Donc le fait qu'on ne l'ait pas vu ne tue pas complètement cette hypothèse, mais enfin, lui met quand même vraiment beaucoup de plomb dans l'aile. Donc cette hypothèse est maintenant très défavorisée. Alors il y en a plein d'autres, mais elles sont toutes extrêmement compliquées. Moi, j'ai même la mienne. Mais sincèrement, aucune n'est consensuelle. C'est-à-dire que soit ce sont des choses qui sont en tension avec d'autres savoirs, soit ce sont des choses qui sont tellement artificielles. C'est-à-dire que, vous voyez, en physique, on aime quand même bien quand on a un modèle comme ça, qui a une consistance propre et qui, hop, vous explique ce que vous voyez. Si après, vous vous dites, comment torturer mon équation pour que ça marche ? Quand vous n'êtes pas débile, vous y arrivez. Mais ça, ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas très convaincant. Donc, on a plein de modèles comme ça. On prend des formules énormes qui sont longues, comme trois fois le mur qui est derrière moi. Et si j'applique cette formule-là, la matière noire marche bien. Oui, mais ce n'est pas convaincant parce que la formule ne vient pas d'un principe sous-jacent clair et beau, mais que la formule a simplement été conçue pour permettre d'expliquer ce que je cherchais. Et ça, c'est un peu triché. Non, parce que parfois ça marche, mais c'est hautement moins convaincant. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'explication tout à fait claire. Là, récemment, avec les ondes gravitationnelles, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de trous noirs que prévu. Et donc, l'idée des trous noirs revient sur le devant de la scène. Mais c'est très compliqué de faire de la matière noire avec des trous noirs, parce que la plupart des trous noirs viennent de l'effondrement d'étoiles. Mais l'effondrement d'étoiles, c'est de la matière normale. Et comme je vous disais tout à l'heure, la matière noire, on sait qu'elle n'est pas normale. Donc, on ne peut pas la faire avec des trous noirs qui viennent d'étoiles, parce que ça compterait comme de la matière normale. Or, elle ne peut pas être normale. Donc, si on fait de la matière noire avec des trous noirs, il faut que les trous noirs, comme disait monsieur, se soient produits juste après le Big Bang. Là, ça marcherait. Mais on ne comprend pas comment on peut faire des gros trous noirs juste après le Big Bang. C'est pas normal. Donc, voilà. Il n'y a pas aujourd'hui... Il y a 5 ans, je vous aurais dit, il y a une hypothèse privilégiée qui est probablement juste. C'est la supersymétrie. La meilleure hypothèse est morte. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Et c'est vieux. Hein. C'est rare les problèmes qui durent aussi longtemps en physique. Ça a été découvert dans l'année 1930 par Zwicky, un astronome américain d'origine autrichienne, qui était hyper doué, il a trouvé ça 30 ans avant tout le monde, et hyper arrogant. Et une fois, il a dit à un journaliste que ses collègues étaient des crétins sphériques. Et les journalistes lui ont dit « crétin, je comprends, mais pourquoi sphérique ?» Elle a dit parce qu'ils sont aussi bêtes, quel que soit le point de vue sous lequel on les regarde.
Bonsoir. La science médicale, par exemple, est pour partie orientée par des choix de société. Quelle est la mesure du politique dans le choix des modèles étudiés en physique théorique ?
Au début, tu as dit la science quoi ?
La science médicale, par exemple.
Oui. Alors, bon, les choix politiques sont décidés au niveau symbolique. Parce que concrètement, Macron, qu'on fasse de la théorie des cordes ou de la gravité quantique à boucle, il s'en fout complètement, hein. Enfin, je crois. La politique, elle intervient dans ce qui est visible. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on va soutenir le CERN ? Est-ce qu'on va soutenir la physique spatiale ? Est-ce qu'on va soutenir plutôt les grands programmes internationaux ? Ou est-ce qu'on va se renfermer sur nos installations propres ? Là, bien sûr, la politique a un rôle à jouer. C'est compliqué cette histoire, c'est une question subtile en fait, parce que d'un certain point de vue, moi j'aime bien l'idée que la science revienne aux citoyens, parce qu'après tout, moi je suis fonctionnaire, donc je suis payé par vous, donc je trouve ça normal qu'il y ait un retour vers les citoyens et même une décision citoyenne, et en même temps, je suis quand même bien content qu'on vote pas pour savoir quelle est la prochaine expérience qu'on va faire, parce qu'il faut quand même mieux que ce soit des gens qui sachent un peu ce dont il est question que simplement une dictature de l'opinion. Donc c'est une articulation qui est complexe. Pour être tout à fait clair dans ma réponse, je dirais que tout dépend des sommes investies. Quand tu fais de la physique théorique, ça ne coûte pas grand-chose, donc tu fais ce que tu veux. Moi, je suis très très libre. Quand j'ai décidé de faire de la gravité quantique à boucle, j'ai demandé l'autorisation à personne, hein, même pas mon directeur de laboratoire. Un jour, j'ai dit, tiens, mais c'est marrant, en fait, je trouve ça intéressant, je sais faire des choses. Avec mon thésard, on s'est dit, on s'y met, ça y est, on s'y met. Et maintenant, on est devenu un meilleur, ce sera prétentieux, mais un des vrais groupes de cosmologie quantique à boucle. Voilà. Et ça s'est fait sans l'accord de personne. Ça s'est juste fait parce qu'on avait envie de le faire. Évidemment, si tu te dis pareil, mais avec une expérience qui coûte 1 milliard d'euros, là, sans demander l'accord de personne, ça ne va pas le faire. Il va falloir passer par beaucoup, beaucoup d'étapes. Et dans ces étapes, il y a des choix qui relèvent de la décision des scientifiques, c'est-à-dire, en effet, la manière dont le CNRS va allouer ses budgets en favorisant tel ou tel sous-domaine essentiellement décidé par les scientifiques eux-mêmes, mais il y a un certain niveau de visibilité où effectivement c'est piloté directement par en haut. La chance qu'on a quand même en Europe, c'est qu'il y a une continuité des décisions politiques. Aux États-Unis, comme c'est revoté par le Congrès chaque année, on peut s'engager dans un programme et l'arrêter en cours de route. Ça s'est déjà fait dans le passé. Nous, on a quand même une certaine visibilité sur le long terme qui est plutôt positive. Voilà. La question qui est derrière, c'est aussi la question de science et société, de savoir quel retour on fait de la science. Et ça, c'est très problématique. Parce que on voit bien que dans les journaux de vulgarisation scientifique, que par ailleurs, je ne dénigre pas, hein, moi j'ai des amis journalistes que je trouve pour la plupart très brillants, mais il n'empêche qu'ils sont obligés de présenter les choses toujours comme, voilà, on a la nouvelle théorie révolutionnaire, quoi. Et s'ils ne font pas ça, ils ne vendent pas. S'ils ne vendent pas, ils meurent. Je ne leur jette pas la pierre. Mais concrètement, ça frise parfois la désinformation. Et donc, comment gérer ça, en fait ? C'est compliqué. Donc, finalement, je ne sais pas ce que nos concitoyens ont vraiment compris de ce qui se passe, et même de la méthode scientifique elle-même, en fait. Mais c'est peut-être aussi vrai de tous les domaines, ça. C'est-à-dire que, finalement, il y a aussi une subvention publique de l'art, par exemple, qui n'est pas très élevée, mais enfin, qui existe quand même, qui intéresse, hélas, assez peu de gens.
Vous avez dit tout à l'heure que trouver des objets à proximité de nous qui seraient plus vieux que 15 milliards d'années, ça serait intéressant. Où va la recherche de tels objets ? Deuxième chose, quel est exactement l'âge de notre propre galaxie ? À quel moment a-t-elle commencé à se faire ? Troisième chose, vous avez dit les trous noirs sont consécutifs à des effondrements d'étoiles. Quand il y a un trou noir de 3 millions de masses solaires comme au centre de notre galaxie, voire de 3 milliards de masses solaires comme au sein d'autres galaxies, quelle est l'interprétation que vous donnez à ces existences de méga trous noirs et dont la taille est relativement faible ?
Oui, bah, vous avez raison, bien sûr. Donc finalement, l'argument que je donnais pour les âges est en fait un argument historique. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne va questionner le modèle du Big Bang comme ça, parce qu'on a des datations qui sont extrêmement précises et on sait très bien qu'on ne va pas trouver demain une étoile qui est 20 milliards d'années. Donc c'est, je le donnais au sens de la construction du modèle du Big Bang, c'est-à-dire que dans les années 50, quand on commençait à avoir une première estimation de l'âge de l'univers, c'était vraiment fascinant de voir que les âges des objets coïncidaient à peu près avec l'âge de l'univers. Aujourd'hui, c'est plus du tout intéressant puisque on a une mesure très 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 précise de l'âge du découplage, du rayonnement cosmologique, de la formation des structures, etc. Et donc finalement, ce n'est plus, j'aurais peut-être dû le dire en effet, une sonde qui est aujourd'hui pertinente. Alors l'âge de la galaxie, de l'anneau, de la Voie lactée, c'est compliqué parce que en fait, c'est très dépendant de ce qu'on appelle la formation de la Voie lactée. En fait, comme vous le savez, mais c'est lié à votre remarque d'après, parce que vous me posez la question parce que vous savez que la réponse est compliquée, on sait assez mal finalement la manière dont se forment les galaxies. Dès qu'on met des baryons, les simulations des grandes structures aujourd'hui sont quand même progressent, mais sont toujours en difficulté. Et effectivement, on ne sait même pas de façon complètement certaine dans quel ordre le rôle corrélatif de la formation des trous noirs et des étoiles. Le modèle standard est quand même plutôt de penser qu'on forme d'abord quelques étoiles très massives, donc étoiles de type O, qui sont très massives, qui ont une durée de vie donc très courte, qui ont typiquement 1000 à 10 000 fois la masse du Soleil, mais elles vivent très peu de temps parce qu'elles sont énormes, donc elles vont faire des trous noirs massifs, mais comme vous dites, 1000 ou 10 000 fois la masse du Soleil, on est encore très loin des millions ou milliards de masses solaires qu'il y a dans certaines galaxies. Donc ce qu'on pense, c'est que ces étoiles étant des régions compactes, et que donc les trous noirs vont coalescer, vont merger et vont former les très gros trous noirs. Simplement, ça marche pas très bien parce que quand on fait les calculs, c'est pas facile parce que ces trous noirs sont quand même très petits, c'est ce que vous disiez, et donc la probabilité qu'ils se rencontrent est assez faible. Donc même s'il y a des processus dissipatifs, c'est pas évident de faire ça. Donc l'autre hypothèse, ça serait qu'en fait les trous noirs précèdent les étoiles, mais là il faut trouver un moyen de les former. Le seul moyen, c'est celui que mentionnait Monsieur tout à l'heure, c'est les trous noirs primordiaux. Et les trous noirs primordiaux, on sait en faire des petits, mais on sait pas en faire des gros. Donc en résumé, en effet, vous avez raison, il y a toujours une énigme qui fait que ce qu'on appelle la hiérarchie des structures dans la formation des galaxies n'est pas bien comprise à l'heure actuelle. Et donc, du coup, c'est très difficile de dater l'origine de la galaxie, parce que qu'est-ce qu'on appelle le début ? Est-ce que c'est la formation des étoiles ? Est-ce que c'est la formation du trou noir ? Est-ce que c'est la formation des systèmes complexes ? Bon, on sait que c'est autour de 10 milliards d'années, hein, mais je pense qu'on peut aller de 9 à 11 en variant le détail de la définition. Oui, il y a encore beaucoup de travail, en fait.
Les dernières questions parce que le temps.
Tout à l'heure, vous avez mentionné une baisse de la technicité. Alors, j'ai peut-être eu un problème de concentration, mais au niveau de la science en règle générale, vous parliez d'une baisse de la technicité où j'ai peut-être pas bien situé ce que vous aviez.
Mais c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi, mais je me souviens plus à propos de quoi, tu te souviens, non ?
Non, je me.
Ah oui, oui, à propos de l'enseignement. Ah oui, bah oui, parce que, voilà, à propos de l'enseignement, par exemple, moi, quand j'étais en maths sup, je me souviens que, en terminale, justement, on venait d'arrêter de faire bon, les structures fondamentales algébriques, groupe, anneau, corps, magma, etc. Quelques années avant moi, c'était encore fait en terminale, ça. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne le fait plus. Et je vois, moi, je vois à l'université des étudiants parfois qui arrivent, qui n'ont même jamais fait une démonstration. En fait, ils ne comprennent même pas le concept de démonstration en mathématiques. Donc, en termes, je pense, vraiment, si on prend les savoirs mathématiques en particulier, bruts, il est indéniable dans les, disons, 50 dernières années, je ne dirais pas les 3 derniers siècles, mais dans les 50 dernières années, il est indéniable qu'il y ait une baisse de niveau. Mais en même temps, c'est ça que j'appelais baisse de technicité. C'est-à-dire que concrètement, là, si on prend un élève de terminale et qu'on lui donne une équation différentielle à résoudre, c'était mieux il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il sait ce que c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai. Mais le problème de ça, c'est que moi, ça ne me paraît pas si dramatique, en fait. Parce que les mathématiques, c'était la discipline la plus enseignée, disons la plus prestigieuse dans le système éducatif français depuis plusieurs décennies. Avant, c'était peut-être le latin, mais depuis plusieurs décennies, c'est quand même si on veut avoir un bon métier, il faut être bon en maths, quoi. C'est plus intéressant que d'être bon en dessin, c'est ce que les parents disent à leurs gamins. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est l'archétype qu'on transmet à nos enfants. Et je trouve ça complètement dingue de penser qu'avec cette survalorisation des mathématiques, on dit à tous les enfants, sois bon en maths, sois bon en maths, c'est la discipline importante, va en terminale S, si tu veux avoir un avenir. Et malgré ça, on prend quelqu'un dans la rue au hasard, peut-être pas dans cette salle parce que vous êtes venu m'écouter, mais on prend quelqu'un dans la rue au hasard, on lui dit mais juste x moins 2 égale 0, combien vous, je sais pas, c'est des maths, je sais pas, les maths c'est une phobie pour 95% des gens, ils ne savent rien, mais rien, même une équation de niveau 6e, Moi, je me souviens très bien, quand j'ai appris les équations en sixième, mon père ne comprenait pas. Et mon père n'est pas débile, il a le bac. Hein. Enfin, on peut être débile et l'avoir, ou, et réciproquement, et très intelligent sans l'avoir. Mais je veux dire, en fait, concrètement, on a généré une phobie des mathématiques. Et moi, je trouve qu'au niveau de la société, prévoir un enseignement en se disant, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est avoir des médailles Fields, et donc 95% des gamins ne vont rien comprendre, mais au moins les 0,1% de génie, eux, ils auront de quoi se faire plaisir, ne me semble pas socialement correct. Comme point de vue. Donc le fait qu'on ait aujourd'hui un enseignement qui est peut-être moins haut de gamme, et en effet, les surdoués des maths vont peut-être s'ennuyer un peu, mais qui quand même me semble être plus accessible, quoi, qui fait que la plupart des gens en retirent quelque chose, ça ne me choque pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non seulement ça ne me choque pas, mais moi je trouve ça pas mal, parce que le côté constructivisme est un peu abordé. Pour le dire de façon naïve, les maths, c'était vraiment senti par les gens de mon âge et plus vieux, je pense, comme l'outil de sélection, quoi. Sauf les quelques-uns qui voulaient devenir physicien ou ingénieur, mais quand même, l'immense majorité des gens, ils s'en foutaient des maths. C'était juste pour passer dans la bonne classe, quoi. Et c'était vraiment uniquement l'évaluation. C'est juste, c'est faux. Et donc, on avait peur des maths. Et tout l'aspect constructivisme qui fait qu'en mathématiques, on est Dieu, en quelque sorte. On peut inventer des structures. Là, si je voudrais avoir deux iPhones, bah, tant pis pour moi, hein, j'en ai qu'un et je ne peux pas créer le deuxième. Mais en mathématiques, si je veux créer un ensemble qui a telle ou telle propriété, les philosophes diraient que la prescription est performative. Il suffit que je l'écrive et il existe. Je veux un ensemble qui a telle et telle loi, ben je l'écris, ça y est, l'ensemble existe. Et toute cette beauté de la créativité mathématique n'est jamais... La critique est aisée, hein. Je ne sais pas comment je ferais si j'étais prof de première, donc je ne prétends pas que c'est facile à faire. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vécu ça, je ne l'ai jamais vu ça. On ne m'a jamais montré les mathématiques comme un espace de liberté. On ne m'a jamais appris à jouer avec l'infini, voire à jouir avec l'infini. Et ça, je trouve que ça va plutôt dans cette direction-là, et ça me paraît pas triste. Voilà. Ben, merci.
Merci. J'ai une dernière petite question de sémantique, mais je pense qu'elle va être, la réponse va être courte. On a parlé de multivers. Je veux dire que moi, il y a quelque temps, je parlais plutôt d'univers parallèle. Est-ce qu'il y a une différence de concept entre les deux ou c'est vraiment synonyme ?
Alors peut-être aujourd'hui, on a tendance à employer univers parallèle pour étant un type particulier de multivers. C'est-à-dire que multivers est plus large. Univers parallèle, typiquement, c'est ce qui se passe en mécanique quantique dans l'interprétation de Everett, où on dit que quand un système quantique interagit avec un système classique, hop, on a un branchement d'univers parallèle. On les appelle parallèles pour signifier qu'il n'y a pas de distance entre les deux. Vous voyez, c'est un peu comme si on se demandait la distance entre un poème de Verlaine et un poème de Rimbaud. Ils sont différents, ça ne se mesure pas en mètres, quoi. Et donc les univers parallèles, comme ça, on ne peut pas mesurer la distance entre les deux parce qu'ils sont dans une sorte d'ailleurs radical. En revanche, en relativité, par exemple, ou même en théorie de l'inflation, quand on commence à parler d'un multivers sous forme de bulle, là, du coup, il y a vraiment une séparation spatiale. On peut dire que le prochain univers est à 10 puissance 24, 10 puissance 10, c'est la puissance 24 mètres, par exemple. Et donc là, bon, c'est purement sémantique, hein, comme vous dites, mais on a tendance à ne pas parler d'univers parallèle. Donc je pense que l'idée de multivers est une sorte de, voilà, de généralisation.
D'accord, merci. Bien. Donc, soirée très riche. parce que voilà, merci d'avoir accepté. Et effectivement, je disais soirée riche parce que on a vu beaucoup de choses, entendu énormément de concepts. Et si vous voulez revenir sur la soirée de ce soir, n'hésitez pas à aller sur le site internet. La conférence justement était enregistrée. On pourrait retrouver donc le déroulé. Voilà. Donc ensuite, merci à tous d'être venus ce soir. Hein, ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde. Ça montre qu'effectivement. Non, je vois un signe. Non, ça montre que ce qu'on fait intéresse le public et pour que ça dure.
Juste un dernier mot, si vous voulez qu'on reste en contact aussi, moi je suis sur les réseaux sociaux, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas honte, mais si vous me demandez comme ami, en particulier sur Facebook, j'ai mon vrai nom, mettez-moi juste un petit mot conférence Poitiers, parce que je peux plus valider les demandes, voilà. Donc si vous n'êtes pas obligé, si vous avez envie qu'on reste en contact, vous pouvez me demander comme ami en mettant juste un petit commentaire avec, sinon je...
Voilà. Ou sur Twitter.
Je mets moins de conneries sur Twitter.
Bien. Donc, merci encore. Donc, demain après-midi, conférence fac de lettres avec ma collègue Héloïse. Et puis, l'an prochain, donc, la programmation est en cours au niveau de l'astronomie. Et il y aura une journée avec les clubs amateurs. La journée n'est pas encore tout à fait décidée, mais elle aura lieu donc un samedi avec, là aussi, des conférences durant cette journée-là. Bien. Donc, très bonne soirée et merci encore.